Voilà, parfait. Donc, et ben commençons. Je vais peut-être vous resituer un peu là où on en est. Vous vous rappelez qu'on sort de deux cours en fait sur la création. Un cours un peu plus biblique où on avait lu les deux récits du livre de la Genèse et puis un cours un peu plus théologique derrière. Et le but de ces cours, c'était quoi? C'était finalement de chercher à donner du sens à notre situation dans ce monde. Est-ce qu'on est jeté dans l'existence de manière absurde, sans qu'il y ait rien à comprendre, ou est-ce qu'on peut trouver un fondement à notre vie dans ce qui serait le projet, le dessein d'un Dieu créateur? Et bah bien sûr, là, il y a l'espace d'une décision que tout le monde ne prend pas. Mais la position de la foi, c'est que oui, nous venons d'un autre, avec un grand A, qui confère au monde son existence et son sens. Et pour la foi, cette relation de créature à créateur, c'est la relation fondamentale, celle dans laquelle vraiment on peut reconnaître la vérité de notre être. Et cette relation, disons-le tout de suite, elle n'a rien d'aliénant, de dépendance à un créateur, elle n'a rien d'aliénant, elle signifie simplement qu'à l'origine de tout, il y a la gratuité d'un don sur laquelle on ne peut rien. Alors, on avait essayé la dernière fois déjà de redonner de la consistance, de la profondeur à la compréhension de cette idée de création. C'était important parce que parfois, on est tenté de la réduire à la simple mise en route d'un monde. Et vous vous rappelez peut-être ce qu'on s'était dit, on dit, bah, il faut sortir de la logique de causalité. Dieu n'est pas que la cause de ce monde. Et on en était arrivé à parler d'un Dieu donateur, un Dieu qui crée librement, par amour, un monde libre. Et on avait dit aussi qu'il prenait le risque, ce faisant, d'être affecté par sa création. Et puis on avait terminé en réfléchissant à la réponse que ce don appelle de la part de l'homme, parce que qu'est-ce que c'est qu'un don qui n'est pas reçu? Eh bien, ce monde est beau, il mérite notre émerveillement, il mérite notre louange, et puis surtout, on avait terminé en disant, il nous est confié. Et d'un côté, c'est vrai, on en est intimement solidaire de ce monde, mais en même temps, on en est aussi comme le couronnement, seul fait à l'image de Dieu, dit la Bible, avec la responsabilité particulière que ça induit, responsabilité de co-création, une manière de dire les choses, responsabilité d'en prendre soin. Et c'est là qu'on avait évoqué cette idée finale de maîtrise de la maîtrise, de domination par la douceur, avec Paul Beauchamp. Voilà, je ne sais pas si ça vous remémore un petit peu quelques éléments de la dernière fois. Donc vous voyez, pendant deux cours, en fait, on n'a vu que des réalités positives. Une création bonne, voulue par un Dieu bon, qui fait une place à autre que lui. Puis aujourd'hui, on va parler du mal. La chose sans doute la plus redoutable qui soit au monde, celle qui nous révolte tous, et dont évidemment on ne peut parler qu'avec beaucoup de précautions, ce que je vais essayer de faire, mais qui est difficile. Et commençons par dire que, mettre en avant que cette réalité du mal, d'abord, elle est très complexe. Déjà parce que sous ce même terme de mal sont regroupés des phénomènes différents. Il y a d'abord le mal auquel vous, bien sûr, vous pensez tous, dans lequel les hommes portent une part de responsabilité. Et celui-là, c'est peut-être le plus terrifiant qui soit, parce que on sait que quand des hommes mettent leur ingéniosité au service du mal, ils peuvent aller très très loin. Mais il n'y a pas que ce mal. Quand il y a des catastrophes naturelles, comme on a vu en Turquie, un tremblement de terre, des inondations qui ravagent un village, ben les hommes n'y sont pour rien. On peut leur reprocher des négligences, peut-être, mais ils n'y sont pour rien. Quand un enfant, une jeune maman sont atteints d'une maladie mortelle, c'est pareil. Autrement dit, le mal déborde la responsabilité humaine. Ce qui signifie que la question que pose le mal n'est pas qu'une question morale. Elle ne concerne pas que notre conduite. Elle est beaucoup plus fondamentale et plus radicale. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se contenter d'essayer de poser la question, essayer de la poser correctement. Et puis on verra comment on peut s'orienter une réponse chrétienne. Mais je vous dis tout de suite, on ne va pas épuiser le sujet en 2 heures. Et on poursuivra la prochaine fois en envisageant le mal sous deux de ses figures, qui sont celles de la mort et du péché. Et puis surtout après, on verra comment Dieu en triomphe. Et ce sera la question du salut, les cours 6 et 7. Donc vous voyez, on n'en aura pas fini aujourd'hui avec ce sujet-là. Mais en guise d'introduction, je vous propose de rouvrir la Bible pour faire le passage de Genèse 2 à Genèse 3. Deux chapitres qui sont du même auteur. C'est un même récit des origines. Le chapitre 2 parlait de la création. Il nous parlait de nos premiers parents qu'on voyait placés dans un jardin, le jardin d'Éden, une oasis avec des arbres, des fruits, tout ça étant très positif. Dieu donne, et c'est bien. Comme en Genèse 1 d'ailleurs, où vous vous souvenez le refrain qui revenait chaque jour, et Dieu vit que cela était bon, et même à la fin, très bon. Et c'est là qu'on s'était arrêté, en attente de ce qui va arriver. Parce qu'on se doute que quelque chose va arriver, puisque ce récit est quand même orienté vers une histoire. Dieu parle et il dit « cultivez, gardez le jardin, mangez du fruit des arbres », mais il dit aussi « attention, ne faites pas ça, sinon vous mourrez ». Donc on est en attente en fait. Et c'est là qu'en Genèse 3, dans cette création qui apparaît entièrement bonne, tout d'un coup, le mal surgit, brusquement, sous une figure très énigmatique qui est celle du serpent. Tout commence par un dialogue entre lui et la femme à propos du fruit dont il ne faut pas manger. Et puis, on va assister à la transgression de l'interdit, la désobéissance de la femme, puis de l'homme. Et ça se termine par un certain nombre de sentences que Dieu va prononcer à leur égard. Alors, je vais essayer de partager l'écran en faisant mieux que l'autre fois. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Vous voyez bien, quand c'est comme ça, c'est pas génial. Comme ça, j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Arrêtez le diaporama. Attendez. Arrêtez le partage. Je vais recommencer. Attendez. Bon. Zut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon cours. Excusez-moi. Catastrophe. Attendez, vous permettez, il faut que je rouvre mon cours. SIF, programme. Après, j'ai compris la bêtise que j'avais faite la dernière fois, donc je ne la recommencerai pas. Mais, mon cours. Aude. Voilà. Et là, il faut que je repartage. Donc, je recommence. Partager l'écran. PowerPoint. Partager. Et c'est celui-là qu'il faut que je mette. C'est bon, là? Là, ça doit être bon, hein, avec le plan. Voilà.
Oui, c'est bon.
Voilà. Et donc, je vous dis, tout d'un coup, transgression de l'interdit, le serpent qu'on voit sur l'image, hein, Michel-Ange. Et à partir de ce moment-là, de la transgression de l'interdit, toutes les relations vont se dérégler. Elles vont se dérégler avec Dieu. On nous dit que Adam et Ève se cachent. Elles se dérèglent avec la nature. On nous dit que l'homme devra la travailler désormais à la sueur de son front, qu'elle produira l'épine et le chardon. Avec l'autre sexe, on voit l'homme dénoncer la femme. Et puis on nous dit qu'elle tombera sous la domination de son mari, qu'elle souffrira pour mettre au monde des enfants. Et bientôt, dans le chapitre suivant, ce sera le trouble de la relation entre frères, avec le meurtre d'Abel par Caïn, en Genèse 4. Comme une sorte de redoublement, au plan humain, horizontal, de la dégradation initiale avec Dieu. En Genèse 3, la relation avec Dieu est faussée. En Genèse 4, la relation entre frères s'en trouve complètement faussée aussi. Alors, comment comprendre ce passage de Genèse 2 à Genèse 3, cette rupture dans le récit tout d'un coup? Eh bien, c'est, nous l'avons dit, un récit de sagesse. Ça veut dire qu'il est écrit par des sages qui, à cette époque, réfléchissent sur la condition humaine et qui, dans un premier temps, première pensée, qui voient la création comme un don qui est bon, d'où les deux premiers chapitres. En même temps, leur expérience les amène à constater dans le monde la présence d'un mal qui s'envisage sous deux formes principales et distinctes, un mal plutôt moral qui vient de l'homme. Dans le récit, ça sera manifesté par le mensonge, la désobéissance, l'infidélité à Dieu, la méconnaissance de sa parole, et puis un mal plutôt subi, la souffrance, la mort. En fait, c'est le mal dont on est la victime, le malheur. un mal commis, en péché, en langage religieux, on appellera ça le péché, et puis un mal subi ou souffert. Donc, vous voyez, deux formes, mais en fait, une même énigme, le même mot, un même mystère d'iniquité, pour reprendre une formule de Ricoeur. Alors, constatant ça dans leur expérience, les auteurs vont compléter leur récit de création bonne par un épisode où ils posent la question de ce mal et où on voit la situation se dégrader. Je ne vais pas plus loin dans Genèse 3 parce qu'on va le traiter en détail au moment du prochain cours sur le péché. Parce que dans ce récit, il y a tous les éléments qui permettent de voir en quoi consiste le péché. Ce que je vais faire à ce stade, c'est vous faire remarquer qu'il y a déjà... ce récit attire notre attention sur trois points qui vont être en fait le plan de secours. Enfin, en tout cas, tout le début du cours. Un, on voit dans le récit que le mal n'est pas ce qu'il y a de plus originaire, puisque dans ce récit des origines, il y a quand même d'abord, de Genèse 3, mais c'est vraiment, il y a d'abord un chapitre qui n'en parle pas. Dieu agit, les hommes sont là et c'est bien. Deuxième chose, le mal s'introduit par surprise, par ruse. Il est dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux. Autrement dit, le surgissement du mal reste une énigme. On ne comprend pas pourquoi il est là. Tout à coup, on se trouve en sa présence, mais on ne nous l'explique pas. Et puis troisièmement, on voit que Dieu s'engage. Condamne sévèrement le serpent, tu seras maudit, alors que l'homme et la femme ne sont que châtiés. Et puis on voit qu'il engage, il s'engage dans une lutte avec le serpent, contre le serpent, dans lequel il se range aux côtés de la femme. Et il annonce la victoire finale par une mystérieuse promesse. Je mettrai l'hostilité, je cite, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête, autrement dit, tu mourras, et tu la meurtriras au talon. Et puis dernière chose, on voit que Dieu prend soin de l'homme et de la femme. Il leur fait des tuniques de peau, comme dans une sorte de mansuétude, avant de leur dire, maintenant, partez, lancez-vous. Donc, vous voyez, ce sera les trois premiers points du monde, du plan, 1, 2 et 3. Et puis, on complétera la situation, la réflexion, en traitant de la réponse possible à donner au mal. Alors, un petit mot de bibliographie. Donc, vous avez un document sur la bibliographie, je vais passer vite. Cette fois-ci, je vais faire vraiment deux rubriques, une rubrique plus théologique, et puis une rubrique plus littéraire, parce que devant cette question tellement large, il y a beaucoup d'œuvres en fait, qui traitent du mal. Et voilà, ça permet de se replonger dans la question, de rouvrir la question d'une manière peut-être plus à distance. Alors, en théologie, Paul Bouchamp, donc le grand théologien bibliste dont on a parlé l'autre fois, dans 50 portraits bibliques, il y a un portrait de Job qui s'appelle « Le cri du lépreux ». Yvette Chabert, Roger Philibert, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre, donc je m'en souviens plus très bien, mais la collection, tout simplement, elle est très bien. La seule chose, c'est que là, je pense qu'on est plutôt dans un mal moral. Adolphe Guéché, Dieu pour penser le mal. C'est le premier tome de sa collection Dieu pour penser. Et puis un article que vous étudierez en groupe. Hans Jonas, le concept de Dieu après Auschwitz, tout petit livre, 71 pages, dont on va beaucoup parler tout à l'heure. Il est au CIF pour ceux qui veulent le prendre. Jean Lévesque, Job, les cahiers évangiles, c'est toute une collection de petits cahiers très simples, mais très synthétiques autour d'une même question.
Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez l'air de lire. Est-ce qu'on est censé non. voir les non. titres des livres que vous énoncez ou pas
Non. Là, je ne les ai pas pris en photo. Vous les avez dans le...
On les a reçus en pièce jointe.
Oui, on les a reçus dans le mail, oui.
Donc, et là, c'est vrai que je n'ai pas fait de photo là-dessus. Marion Muller-Collard, alors ça c'est vraiment un petit livre que j'ai trouvé formidable, que je n'ai lu que cette année, bien qu'il ait presque 10 ans. L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce. Il est vraiment formidable ce livre parce que c'est une théologienne protestante, pasteur. Elle parle beaucoup de Job, elle fait une analyse très précise du livre de Job, qu'on va faire nous-mêmes tout à l'heure, mais en même temps elle y adjoint son expérience personnelle, elle a failli perdre un fils, et puis elle a été aumônier d'hôpital pendant très longtemps, donc elle a vraiment, elle s'est coltinée un peu avec la souffrance au quotidien, et vous verrez par exemple que tout ce qu'elle dit, très proche de ce que dit Adolphe Guéché aussi. Paul Ricoeur, un tout petit livre aussi, qui est en fait une conférence qui s'appelle « Le mal, un défi à la philosophie et à la théologie ». Il est aussi Fossi. Très, très bien, c'est intéressant. Un défi à la théologie et à la philosophie, les deux. Elie Wiesel, un autre portrait de Job dans Célébration biblique. Deux petits livrets complémentaires. Ces petits livrets, c'est ces livres qu'on peut acheter au CIF. C'est des textes qui parfois ont été étudiés dans le passé, puis qu'on a, voilà, on a changé, et qui traitent de points un petit peu particuliers. Le texte de Bernard Rey, Faiblesse et toute puissance de Dieu, est très intéressant. Puis Délivre-nous du mal, bon, vous voyez. Et puis littérature, bon, le journal d'un curé de campagne, La peste de Bernanos, La peste de Camus, Les frères Karamazov. Alors là, ça c'est un passage vraiment incontournable. Une vie bouleversée, d'Étil Soum, dont on reparlera tout à l'heure. Candide de Voltaire, La nuit d'Elie Wiesel, je vous en parlerai aussi. Et puis un livre que je n'ai pas mis, parce que je l'ai découvert là, j'ai fini de lire il n'y a pas longtemps. Frédéric Leichter-Flack, Pourquoi le mal frappe les gens bien ? Et donc, elle propose une réflexion plutôt philosophique, mais à partir de la littérature. Et donc, elle repasse en visite plein de grandes œuvres, celles que je vous ai utilisées, celles que je vous ai citées là, d'autres. Voilà, et elle dit, on ne peut pas s'accommoder de la souffrance de l'innocent, mais la fiction littéraire peut permettre de dire les choses là où le discours intellectuel et théorique est vraiment impuissant. Voilà pour la bibliographie. Alors, on commence. Le mal n'est pas ce qu'il y a de plus originaire. Ça, c'est très important. Il y a une manière de présenter la foi qui, il y a eu, surtout moi maintenant, heureusement, pour annoncer le salut en Jésus-Christ, commençait par insister sur la misère de l'homme. D'abord, il fallait pointer son péché, sa perdition, pour montrer l'urgence du salut. Et ça, je dis tout de suite, c'est une vision qui est déformée de l'homme. Si vous ouvrez la Bible, vous l'avez vu, la Bible commence par nous dire son éminente dignité. Il est créé à l'image de Dieu. Il est habité par l'haleine de vie de Dieu. Il est le couronnement de son œuvre. Et c'est vraiment pas juste de présenter le Christ d'abord comme celui qui nous rejoint dans la souffrance et dans la mort. Parce que le risque de cette vision des choses, c'est de nous faire associer l'amour et la bonté de Dieu aux situations d'épreuve, plus qu'à la joie et à la vie. Avec le risque d'un christianisme qui serait complètement doloriste et qui ferait oublier que le monde est bon, que la vie est belle, que Dieu nous veut vivants, qu'il nous veut joyeux, que l'amour de la vie, la fête, ça le glorifie. Et donc, faut revenir à quelque chose de plus équilibré. Mais c'est vrai qu'on a derrière nous toute une tradition qui pense que pour comprendre l'homme, il faut partir du péché originel. Cette tradition, en Occident, elle est initiée par saint Augustin. Elle va beaucoup se renforcer au XVIe et au XVIIe siècle, parce qu'à l'époque, on va parler beaucoup de souffrance, de mort, du fait que le Christ nous en sauve par la croix. Je vais vous donner un ou deux petits exemples, alors vous allez voir qu'ils sont carrément parlants. Luther. Attendez, pardon. Luther. Avec, à côté, une illustration de la confession de la présentation de la confession d'Augsbourg à Charles Quint. La confession d'Augsbourg, c'est la confession officielle, la confession de foi officielle de l'Église luthérienne. Tous les princes du Saint-Empire romain germanique qui avaient été convertis à la Réforme avaient signé cette confession. Et par quoi est-ce qu'elle commence? Article 1, de Dieu. Article 2, titre du péché originel. Et je vais vous montrer ce qui est écrit, vous allez voir. Nous enseignons que par suite de la chute d'Adam, tous les hommes nés de manière naturelle sont conçus et nés dans le péché. Ce qui veut dire que dès le sein de leur mère, ils sont pleins de convoitises mauvaises et de penchants pervers. Il ne peut y avoir en eux, par nature, ni crainte de Dieu, ni confiance en lui. Ce péché héréditaire et cette corruption innée et contagieuse est un péché réel qui assujettit à la damnation et à la colère éternelle de Dieu, tous ceux qui ne sont pas régénérés par le baptême ou par le Saint-Esprit. Vous voyez, ça va fort. Hein ? Réponse à la réforme, le Concile de Trente. 1545-1563. qui va parler des modalités du salut, ce qu'on appelle le décret sur la justification. Mais par quoi est précédé ce décret? Par un décret sur le péché originel. En fait, on commence par ça. L'homme s'explique d'abord par ça. Donc, vous voyez le contexte un peu. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Eh bien, toutes sortes de prédications et de catéchèses qui vont dans le même sens. C'est Pascal qui décrit dans les pensées la misère de l'homme sans Dieu. C'est tout le courant janséniste en France qui prône que depuis le péché originel, la volonté de l'homme n'est capable que du mal, sans le secours de Dieu, qu'il a besoin de la grâce efficace et elle seule qui peut lui faire préférer la volonté de Dieu aux satisfactions terrestres. Cette grâce, oui, elle est irrésistible, mais elle n'est pas accordée à tous. Et donc, tous les débats sur la liberté et la grâce que ça va provoquer. Donc voilà, un peu, vous voyez, ce dont on hérite. Or, il existe une autre manière de présenter le mystère chrétien, plus ancienne, et qui vient des pères de l'Église, et qu'on a récupéré quand? Quand on s'est intéressé au premier millénaire de l'histoire chrétienne, globalement, fin du 19e, début 20e, et qu'on a complètement acté avec Vatican II. Et qui nous dit, eh bien, fondamentalement, le monde est bon, la vie est belle, même si elle n'est pas sans problème. Donc, première idée à retenir, le mal n'est pas ce qu'il y a de plus originaire. La Bible, les pères, et ne nous laissons pas complètement envahir par une tradition qui est plus récente, qui a ses arguments, hein, mais qui n'est pas que ça. Il faut retrouver un certain équilibre. Deuxième chose, deuxième idée, le mal est un scandale incompréhensible. Le mal reste toujours en excès par rapport à la réflexion. On peut chercher à comprendre, à réfléchir, à assumer. Les questions ressortent toujours. On n'en a jamais fini. Le mal est un non-sens. Que les choses aillent mal alors que Dieu les veut bonnes, ça ne va pas. On veut du sens et il n'y en a pas. Et on ne va pas travailler ici à l'expliquer, à le rendre intelligible, parce que ce serait le justifier. Or, le mal est profondément scandaleux. Devant quelqu'un qui souffre, est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce qu'on peut chercher une justification? Est-ce qu'on peut le renvoyer au péché originel? Vous voyez bien que ce n'est pas possible, que c'est quelque chose qui est intolérable là-dedans. Il n'y a qu'une attitude possible face au mal. Le scandale, la révolte, et puis faire quelque chose pour s'y opposer, pour le combattre. Alors, quelqu'un qui représente très bien ce type d'attitude, c'est Albert Camus. Vous avez peut-être lu La Peste, ça vous rappelle peut-être des souvenirs d'école. Un roman qui reste toujours aussi puissant. C'est vraiment une réflexion sur le mal. On est à Oran, les rats transmettent la maladie, on est dans une ambiance de peur, de mort, et à un moment dans le récit, on relate la mort d'un enfant innocent. Évidemment, il n'y a rien de plus horrible, et donc le docteur qui est à Oran, qui essaye de prendre en charge tout ça comme il peut, le docteur Rieux, qui est athée, se révolte. Et le dimanche, tout le monde attend en chair le discours que va faire le père Panelou. Et que fait le père Panelou? En fait, il accueille cette révolte. Et il accepte d'être écartelé par la question. Et on comprend bien que Camus, qui n'est pas croyant, mais qui est à la recherche d'une sainteté laïque en quelque sorte, pense que c'est ainsi qu'il faut être. Accueillir la révolte, rester écartelé par la question. Il n'y a pas de savoir qui maîtriserait le problème du mal. En revanche, dit-il, il faut être celui qui reste, je le cite, c'est-à-dire celui qui lutte de toutes ses forces, quand bien même, dit-il, toutes les victoires ne sont que provisoires. Alors, on va voir, là, dans un premier temps, comment est-ce que, justement, ben ça, c'est le point de vue d'un incroyant. On va voir, justement, comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament traitent cette question. Alors, l'Ancien Testament, c'est mon point 2.1, mise en lumière du scandale. Dans l'Ancien Testament, le mal est présent, évidemment, dans plusieurs livres, et en particulier dans les psaumes. Et là, on voit s'exprimer une figure qui est celle qu'on appelle du juste souffrant. Le juste souffrant, c'est un juste qui essaye d'être fidèle à Dieu, mais qui voit les catastrophes s'accumuler et Dieu rester silencieux alors que les méchants prospèrent. Alors ce juste crie sa douleur. « Pitié, Seigneur, viens à mon aide, Seigneur, lève-toi, ne tarde pas. » Je vous ai mis un petit échantillon. On peut en mettre beaucoup, des psaumes, de ces psaumes qu'on appelle des psaumes de lamentation. Psaume 19. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Lève-toi, Seigneur, Dieu, étends la main. N'oublie pas le pauvre. Psaume 68. Réponds-moi, Seigneur. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suffoque. Vite, réponds-moi. Psaume 69. Je suis pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Ces psaumes de lamentation sont très nombreux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, d'abord que l'homme a le droit de se plaindre. Et deuxième chose, que Dieu parfois semble absent. Parce que de fait, il arrive que le cri du juste reste sans réponse. Avec l'incompréhension qui en résulte. Je continue. Pourquoi détourner ton visage? Oublier notre malheur, notre misère. Psaume 76. Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter? Regardez, c'est fort ça. Son amour a-t-il donc disparu? Dieu oublierait-il d'avoir pitié? Dans sa colère, a-t-il fermé ses entrailles? J'ai dit, une chose me fait mal. La droite du Très-Haut a changé. Des psaumes qui sont repris d'âge en âge dans la prière d'Israël et qui disent la plainte de l'humanité, qui disent notre plainte et qu'on retrouve dans la bouche même du Christ sur la croix, on y reviendra. « mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas, même la nuit, je n'ai pas de repos. » Figure du juste souffrant. Et puis, il y a une autre figure très célèbre sur cette question, figure extraordinaire de l'Ancien Testament, qui est celle de Job. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu le livre de Job? Non? Je ne vois pas tout le monde, en fait. Donc, il y en a peut-être qui... Okay.
Bon. Moi, j'en ai lu une partie.
Ok. Bah, vous verrez, peut-être que ça vous donnera envie de le lire après. Et je vous ai mis dans la biographie deux petites méditations sur ce livre. Vous remarquerez qu'elles ont des titres très différents. La première, celle de Beauchamp, c'est « Job, le cri du lépreux », le cri. Et puis celle d'Elie Wiesel, c'est Job ou le silence révolutionnaire, le silence. C'est curieux, mais parce que c'est deux aspects qu'on trouve ensemble dans le texte. Et puis vous pouvez lire aussi le livre de Marion Muller-Collard, c'est un fil rouge du livre, le livre de Job. Donc ça, c'est un livre qui met vraiment en pleine lumière le scandale du mal. Dans la Bible, il est placé juste après les psaumes, c'est un livre de sagesse. Et donc, c'est un composite de textes qui viennent d'époques différentes, qui est assez difficile à dater. Mais voilà comment on peut retracer l'histoire. Et vous allez voir que ça fait comprendre pas mal de choses. Au début du livre, il y a d'abord un petit prologue en prose, qui est assez naïf dans l'expression, auquel répond un épilogue, aussi en prose, qui propose une conclusion assez plate par rapport au cœur du texte. Et l'hypothèse, c'est que, même si les débats ne sont pas... complètement clos, c'est que ces deux morceaux forment en fait initialement un vieux récit, un conte qui avait cours dans les tribus bédouines du désert. Alors que raconte ce conte? L'histoire de Job, un homme juste, fidèle à Dieu, intègre, droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal, je cite. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'il soit juste? Il est comblé par la vie, prospère, il a tout ce qu'il faut, des fils, des filles, des bâtiments, des troupeaux, des serviteurs. Alors Satan, traduit dans la Tobe par l'adversaire, Satan, vient demander à Dieu qu'on le mette à l'épreuve. Et il lui dit, je parie qu'il te maudira. Et Dieu accepte. Et il permet qu'une suite de catastrophes retire peu à peu à Job tous ses biens. Et le voilà qu'il se retrouve sur un dépotoir, un tas de fumier. C'est le moment, vous allez voir, où le saisit Georges de la Tour dans ce tableau. Au moment où il est avec sa femme, il ne comprend pas. Et qui lui dit, mais vas-tu persister dans ton intégrité? Et elle lui enjoint de maudire Dieu et de mourir. Mais voilà que Job tient bon, qui reste fidèle à Dieu jusqu'au bout. Je cite, tu parles comme une folle. Et à la fin, c'est le petit épilogue. Tous ses biens sont rendus à Job. Jolie petite histoire moralisante qu'on se racontait à l'époque ancienne. C'est assez primitif, en fait. Et puis voilà que Israël va connaître des épreuves terribles, va connaître l'exil. Et après l'exil, qui est, vous vous souvenez, c'est vraiment une période de fermentation intense, intellectuelle. Un auteur de génie va ouvrir les deux parties du récit et il va placer à l'intérieur des poèmes qui sont absolument admirables. Des poèmes où Job invective Dieu, lui intente un procès, lui crie sa révolte. « Je n'ai rien fait pour mériter ton courroux », lui dit. « Périsse le jour qui me vit naître ». C'est la question du pourquoi. Et le pourquoi de Job, en fait, c'est tout simplement le pourquoi de n'importe quel innocent devant la souffrance injuste. Alors, trois amis viennent le visiter, qui sont en fait les représentants de ce qu'on appelle la doctrine de la rétribution. Doctrine très courante, hein, mais même aujourd'hui, hein, elle n'a pas disparu. Mais à ce moment-là, dans la Bible, la doctrine majoritaire, qu'est-ce qu'elle dit cette doctrine? Si tu en es là, c'est évidemment que tu as mal agi. C'est des sages, ceux qui écrivent le discours. Donc, ils répètent ce qui a toujours été, dit dans leur monde. La vertu est récompensée par le succès. L'homme qui est fidèle à la loi, qui bénéficie en retour du bonheur, c'est comme nécessairement. Prospérité, postérité, la descendance, longévité, des années de vie, renom. D'autant plus qu'à l'époque, je vous rappelle que la perspective d'une vie après la mort ou d'un bonheur après la mort était complètement inconnue. Donc, le bénéfice d'une vie juste, on devait l'avoir maintenant, c'était que justice en fait. Et donc, les amis expliquent le mal. Et ils disent, ben, y a forcément une cause, alors fouille ta conscience, tu trouveras bien quelque chose. Et on va assister à une véritable joute entre eux et Job. Parce qu'à chaque fois, plusieurs fois, les amis vont prendre la parole, et à chaque fois, Job réplique. Il y a 11 poèmes de Job. Et toujours de façon magnifique, pour dire « je ne suis pas en faute, je vénère Dieu, je le respecte, je n'ai rien à me reprocher ». Donc en fait, il atteste son innocence et il crie cette innocence vers ses amis, mais plus encore vers Dieu. Et il s'en prend à lui. Et je vous ai mis quelques petits passages, vous allez voir, c'est incroyable. Incroyable de se dire que c'est dans la Bible. Hein. Quand cesseras-tu de m'épier? Me laisseras-tu avaler ma salive? Ai-je péché? Qu'est-ce que cela te fait, espion de l'homme? Pourquoi m'avoir pris pour cible? Ne peux-tu supporter ma révolte? Laisser passer ma faute? Car déjà me voici gisante en poussière, tu me chercheras à tâtons, j'aurai cessé d'être. En fait, Job se préférerait coupable. Parce que coupable, il saurait que son expérience a un sens. Mais là, clamant son innocence, sûr de son innocence, il est dans les ténèbres. Et voyez que ce que Job exige, ce n'est pas une réparation. Il voudrait une réponse. Une réponse qui lui montrerait clairement que l'homme n'est pas un jouet. Vaudrait presque mieux un Dieu cruel et injuste qu'indifférent. Troisième étape, donc le petit conte originel. Les amis de Job qu'on vient insérer avec qui sont les représentants de la doctrine de la rétribution. C'est donnant-donnant, hein, grosso modo, la doctrine de la rétribution. Troisième étape, un autre poète va introduire une très grande représentation de la création au sein de ce livre. Et là, c'est Dieu qui prend la parole. Pour l'instant, on ne l'a pas entendu encore. Et brusquement, il entre dans le récit. Et il apostrophe Job. Étais-tu là quand je créais? Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre? Qu'as-tu à me demander des comptes? Grosso modo, Job pose des questions qui n'ont pas lieu d'être. Celui qui dispute avec le puissant a-t-il à critiquer? Celui qui ergote avec Dieu voudrait-il répondre? Et là, que fait Job? À votre avis?
Elle répond, il se met en colère.
Il s'tait.
Ah, il loue Dieu.
Non, il s'tait. Il s'enfonce dans le silence. Je ne fais pas le poids. Je ne fais pas le poids. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Et à la fin, on retourne à quoi? Au petit conte originel et à l'épilogue. Tous ses biens lui sont rendus. Alors l'intéressant pour nous dans ce récit, c'est quoi? D'abord, c'est la révolte de Job. Vous avez vu que les mots sont quand même très forts. Hein, c'est presque de l'ordre du blasphème, on pourrait dire. C'est dans la Bible pourtant. Or, vous savez, quand la Bible se constitue, il a fallu faire des tris. Hein. On n'a pas tout gardé. quand il a fallu s'agir d'opérer la sélection, on a gardé le livre de Job. Donc, ce qui est intéressant, déjà, c'est la révolte de Job. Deux, c'est la réaction paradoxale de Dieu. Parce qu'aux amis de Job, qui prennent pourtant le parti de Dieu, qu'est-ce que Dieu va répondre à votre avis ? Alors là, vous allez peut-être être étonnés. Voilà ce qu'il dit. Ma colère flambe contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. C'est quoi de dingue, hein ? Job n'a pas cessé d'invectiver Dieu, et Dieu dit c'est lui qui parle avec droiture. Donc c'est précisément à celui qui se révolte et qui l'insulte que Dieu donne raison. C'est quand même fantastique. Deuxième chose intéressante, cette réaction de Dieu, qui en fait écarte la réaction des amis de Job, pour dire que c'est la réaction de Job qui est saine. Et le plus intéressant, c'est quand même encore l'attitude finale de Job, quand il se tait, qui nous montre tout simplement qu'il n'y a pas d'explication à chercher. Je vous ai mis une petite photo de Chagall, Job en prière, avec peut-être cette couleur verte, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, peut-être comme une couleur de l'espoir. Job répondit alors au Seigneur et dit « Je sais que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises. Qui est celui qui obscurcit mon projet sans rien y connaître ? Et oui, j'ai abordé, sans le savoir, des mystères qui me confondent. Écoute-moi, disais-je, à moi la parole, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par ouï dire. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, j'ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Autrement dit, Job comprend qu'il a plus qu'à se taire. Il se heurte au mystère de Dieu et là, il s'arrête. Je n'avais pas compris. Dieu est au-delà de ses questions. Donc, vous voyez, c'est des versets qui ne sont pas faciles à interpréter, mais qui expriment la découverte que fait Job, que la réponse est ailleurs, dans le silence, dans une vraie connaissance de qui est Dieu. Celui qui se révolte a raison, oui, mais il doit s'incliner devant le mystère de Dieu. Alors, vous voyez, c'est un livre qui pose radicalement la question du mal, qui met radicalement en cause la théologie de la rétribution. En revanche, c'est un livre qui n'explique pas, qui ne justifie pas, qui nous place simplement devant le mystère de Dieu, où on voit Dieu se révéler dans son excès, on pourrait dire. Mais ce n'est pas une réponse à la question. Il n'y a pas d'explication à chercher. Donc à ce stade, on en est là. On regarde, on a fait deux sondages dans l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament nous laisse bouche close devant le mal, au seuil du mystère. Donc en fait, on ne sort pas de cette lecture en ayant mieux compris. On peut juste dire qu'on a commencé à réfléchir et que ça a peut-être fait déjà un petit peu bouger certaines lignes. Est-ce qu'à ce stade... Attends, je vais arrêter de partager. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez des réactions ? Est-ce que c'est... Pour ceux qui n'avaient peut-être pas entendu parler de Job, peut-être...
Est-ce que c'est si facile de s'incliner devant le mystère de Dieu ?
On va y venir. Moi, là, pour l'instant, je te parle dans... Voilà. On nous dit dans l'Ancien Testament, à travers deux figures, le juste souffrant, dans les deux cas, la révolte, la plainte, qui nous disent donc, oui, on a le droit de laisser se répandre la plainte, et même au point même de mettre Dieu en procès.
Non, mais ça, c'est pas mal, c'est réconfortant, Job.
C'est tout ce qu'on nous dit pour l'instant. Mais il n'y a pas d'explication à chercher dans l'Ancien Testament. Parce que la doctrine de la rétribution, c'est une doctrine qui aujourd'hui, mais qui a été très courante dans l'Ancien Testament. Et là, vous voyez, elle est mise de côté complètement.
Et autre, sauf erreur, il se révolte, mais il n'y a pas d'apostasie, enfin, il renie jamais.
Non, puisque... Ouais, il y a des mots quand même très, très durs.
Il y a des mots durs, mais il ne renie pas.
Non, il ne renie pas. Il ne renie pas. Par contre, ce sur quoi il ne transige pas, c'est sur son innocence.
Il a raison.
Ben oui, oui.
Et mais donc, il reste fidèle.
Ben, il reste fidèle, il ne comprend pas, mais à la fin, il comprend que, ben, y a, en l'occurrence, là, il n'y a que le silence. Donc, voilà,
pour vous dire,
pardon ?
Est-ce que c'est une question d'humilité ou d'obéissance ?
Non, c'est pas une question
d'obéissance, en fait.
Non, non, c'est pas une question d'obéissance, c'est une question de, voilà, de s'incliner devant un mystère qui nous dépasse. Voilà.
Et bien heureux.
Pardon ?
On ne vous entend pas, Cathy.
Bien heureux de la faute de l'homme.
La faute de l'homme ?
Ah, ouais, alors là.
C'est Paul qui dit ça.
Comment ?
C'est Saint Paul qui dit ça.
Ouais, alors on en parlera plus tard. Bien heureux, oui.
Faute de l'homme.
Pourquoi est-ce qu'il...
Redis, je n'ai pas entendu.
On en parlera plus tard parce que je reviendrai sur cette expression, mais dans des cours, c'est ça. On peut l'interpréter d'une manière qui est horrible. Hein. Donc,
oui, c'est clair. Voilà. C'est clair.
Donc voilà, Job, pour l'instant, simplement, je pense que ça nous... l'avantage de ce livre, c'est qu'il nous met en garde sur, que... sur les explications trop hâtives. Voilà. Quand on dit, vous voyez le titre du... un scandale incompréhensible, voilà, c'est exactement ça. Alors, on va passer quand même au Nouveau Testament, parce qu'avec Jésus, on pourrait dire les choses vont peut-être changer. Et je commence par dire une chose, c'est que Jésus ne donne jamais, mais jamais, la moindre explication au mal. Il y a une fois, pendant sa vie publique, on lui en demande une. Est-ce que vous voyez quand ?
Quand il guérit l'aveugle ?
Oui, exactement. C'est sa rencontre avec l'aveugle-né, c'est dans Jean 9, si vous voulez, ça vous amuse d'aller regarder après. On voit Jésus et son groupe qui passent devant l'aveugle, l'aveugle-né, il mendie. Et donc, question des disciples, qui a péché pour qu'il soit né comme ça, pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ? Que font les disciples ? Ils cherchent un sens à cette situation. Et on comprend bien qu'ils l'aperçoivent comme un châtiment. Réponse de Jésus, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Autrement dit, la réponse, elle n'est pas à chercher en arrière. Jésus récuse complètement la façon de voir de ses disciples, refuse de chercher une explication au mal. Il n'y a pas au mal d'une cause que Dieu assumerait.
Il y en a quand même un peu une, quelque part. S'il dit que c'est pour que les œuvres, c'est pour un futur déterminé, enfin, ça pourrait se comprendre comme ça.
Voilà, on est dans une œuvre, mais
c'est pas... Donc, il y a une causalité, si c'est pour un futur déterminé.
Déterminé, c'est-à-dire ?
Ben, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Ça veut dire qu'il y a quand même une intention. C'est-à-dire qu'à travers la souffrance, il aura peut-être le temps d'intérioriser un certain nombre de choses et de trouver les voies de Dieu. Donc la souffrance prend un sens là, dans une certaine mesure, hein, tel que je l'ai noté à l'instant. Hein.
Ouais. Alors, cette idée d'une souffrance qui pourrait avoir un sens, alors on y reviendra plus tard. Là, c'est vraiment quelque chose dont il faut se... Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, il faut se méfier. En tout cas, Dieu ne recherche jamais la souffrance. Vous allez voir, on va y aller tout de suite. Ce que dit là, c'est qu'il est pas, on n'est pas dans l'ordre de l'explication de la raison pour laquelle ce mal existe. Ce qu'il nous dit là, c'est qu'à travers ce mal, peut-être que les œuvres de Dieu vont pouvoir se manifester. Mais il ne dit pas qu'il y a une raison pour laquelle ce pécheur, par lui-même, aurait souffert cette injustice. On n'est pas dans une histoire, justement, de rétribution, de châtiment, etc. Vous voyez la réponse, la question des disciples, hein, c'est ça qu'ils cherchent. Mais si je regarde la vie de Jésus lui-même, pour lui-même, il n'a pas reçu de réponse. Parce que lui, il l'a vécu aussi, ce mal, sous sa forme extrême, d'un point de vue physique et d'un point de vue spirituel, c'est sur la croix. Et là, Jésus est abandonné par les siens et apparemment par Dieu, le ciel est vide. Et là, Jésus pose la question. Il s'écrit « Pourquoi ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans la... Je vais repartager. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? À travers ces mots, Jésus... On reprend les mots du psalmiste, hein, on les a lus tout à l'heure. Première phrase, c'est celle qu'on nous relate dans les évangiles, mais si je continue le psaume, le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. » Donc, au moment de sa mort, Jésus pose la question du mal pour lui-même. Et je vous ferai remarquer que son cri, il est resté sans réponse jusqu'à sa mort. Il y a eu une...
La fin du psaume, il faut lire la fin du psaume.
Bien sûr, exactement. Si on lit la fin du psaume, bon alors, je ne l'ai pas écrite là, tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant la grande assemblée, etc., etc. Ce qui veut dire qu'au moment où Jésus prononce cette phrase, il vit ce sentiment d'abandon. En même temps, vous remarquez qu'il reprend une plainte plus ancienne. En même temps, vous voyez qu'il s'adresse à Dieu. Donc, c'est encore une prière. Donc, encore dans une relation à Dieu qui n'est pas détruite. Et que la fin du psaume, effectivement, se termine par un cri de confiance.
On ne le dit jamais, celui-là, à la fin du psaume, malheureusement.
Jamais, on ne l'a
jamais,
dit.
Jamais, 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 au grand jamais.
Et tout d'un coup, vers les trois dernières strophes, où tu y as, ouais. Tu m'as répondu.
Tu m'as répondu, mais alors là, ça sort de la cave. Hein.
Exactement. Mais, d'accord, mais la phrase que Jésus prononce sur la croix, ce n'est pas le « tu m'as répondu », c'est « pourquoi mon Dieu, pourquoi ouais. M'as-tu abandonné ?» Donc, il faut la remettre dans le contexte, mais quand même, c'est la question qu'il pose.
Ouais.
Et sur la croix, Jésus n'a pas reçu de réponse. Dieu ne lui a pas expliqué pourquoi il était là, pourquoi ce sentiment d'abandon qu'il a vraiment vécu avec les larmes de sang à Gethsémani et là avec cette plainte qui reprend. Il y a eu une réponse de Dieu dans l'acte de la résurrection, mais après le passage de la mort, humainement dans sa vie terrestre, il n'a pas reçu de réponse. Donc tout ça pour dire le mal est un scandale incompréhensible, injustifiable, inexplicable et qu'on va... Dans tout ce qu'on va dire là, on ne va rien expliquer. On va continuer à en parler, mais pas sur ce registre de l'explication. Parce que la réponse au mal, elle n'est pas en arrière comme une explication, elle est en avant dans ce qu'on va en faire. Je vais préciser tout ça maintenant. Est-ce que ça va ? Des explications irrecevables, le point 3. Alors, on dit qu'on ne peut pas expliquer, n'empêche que la pensée humaine, elle n'a pas arrêté de spéculer sur cette question du mal et qu'elle a cherché, elle, à l'expliquer, qu'elle a produit toute une série de discours qui sont marqués au fil de l'histoire par de plus en plus de rationalité. Alors, il y a les mythes, ça c'est les grands récits des origines, comme Genèse 2, Genèse 3. Il y en a plein dans le Proche-Orient ancien. Donc là, ben, on va essayer de trouver toute une... Ils vont agiter toute une quantité d'hypothèses pour expliquer le mal. Il y a des textes de sagesse. Ça, c'est le registre dans lequel s'inscrit le livre de Job. Et là, il ne s'agit pas simplement de raconter, mais il s'agit d'argumenter, d'expliquer, avec pour proposition principale la théorie de la rétribution. Donc, grosso modo, la souffrance et la punition du péché, dans une vision très morale des choses. Un autre stade avec celui de la gnose. La question de la gnose, c'est d'où vient le mal ? Et la réponse participe d'une vision dualiste et tragique des choses. Dualiste, parce qu'elle repose sur l'affrontement de deux principes qui sont à l'œuvre dans le monde, le principe du bien, le principe du mal, qui ne cesse de se heurter. Vision tragique, parce que ce combat est sans issue. Et puis ensuite, on a un autre type de discours qu'on a appelé les théodicées, dont je vais vous dire un mot. Donc vous voyez, l'homme de tout temps a essayé de se débrouiller. Mais en fait, vous allez voir, rien n'est convaincant. Et toutes les explications qu'on donne, alors la Bible nous dit, c'est pas la peine d'expliquer, peut-être qu'il suffit il faut se taire. Jésus nous dit, il ne faut pas expliquer, il n'explique rien. Et bien sûr, on n'a pas pu s'empêcher, avec notre raison, d'expliquer. Mais vous voyez, vous allez voir pourquoi c'est irrecevable, c'est que dans tous ces modèles, ce qui est souvent sacrifié, ce qui les met en échec, c'est la souffrance de l'innocent. Parce que ça, personne ne peut en rendre compte. Alors, on va prendre un type d'explication irrecevable, deux types, et on va essayer de comprendre, de voir pourquoi justement ça ne colle pas. Premier type, le mal est l'ombre ou la contrepartie du bien. Grosso modo, on va dire que s'il y a du bien, ben, il est inévitable qu'à côté, il y ait du mal. Que dans un monde, pour que le bien se déploie, qu'on comprenne ce qu'est le bien, il faut du mal. Ou alors, on dira, ben, le mal, celui qu'on connaît, ben, c'est une composante nécessaire de l'évolution du monde. L'évolution du monde, elle nous échappe, le sens nous échappe. On sait qu'il va vers une fin heureuse. Donc, il faut croire, voilà, il faut croire en la bonté de Dieu, mais il y a des choses qui nous échappent. Je trouvais ça tout le temps dans les sermons de Bossuet, par exemple. Et c'est à ce premier type d'explication, hein, le mal, contrepartie du bien, c'est à ce registre qu'appartiennent les théodicées. Alors, théodicée, c'est un mot, vous voyez, je vous ai mis le portrait de Leibniz avec son essai. Théodicée, c'est un mot qui vient de théos, Dieu, et dikai, justice, grec. Donc, ça veut dire, c'est un mot qui signifie la justification de Dieu. Comment justifier Dieu? Comment le dédouaner de la responsabilité du mal dans ce monde qu'il a créé? Et la proposition la plus fameuse dans l'ordre philosophique, c'est la théodicée que produisit Leibniz, donc en 1710. Donc, vous voyez, l'objet, disculper Dieu, comment? En donnant au mal une explication rationnelle. Rien n'est sans raison, dit Leibniz. Je vous rappelle, c'est l'époque des Lumières, hein, le 18e. Hein. Rien n'est sans raison, dit Leibniz. Et ce monde, voilà sa thèse, ce monde est le meilleur des mondes possibles. Ça veut dire que c'est le monde qui a le maximum de perfection avec le minimum de défauts. Dieu, qui est bon, qui est parfait, parmi tous les mondes possibles, a créé le meilleur et le plus riche. C'est pas vraiment un optimisme, parce qu'on a dit ça, que le meilleur des mondes possibles, c'était très optimiste. C'est pas vraiment un optimisme, c'est pas le monde rêvé, mais c'est le meilleur. Et chaque chose, chaque être, chaque événement, même le plus minime, est lié au tout du monde. Et tout fait partie d'un enchaînement rigoureux de faits qui conduisent à un bien, même le mal. Le mal est nécessaire à la richesse du monde. Pour donner une image, il fait en quelque sorte partie du tableau comme d'un détail qui serait nécessaire à l'ensemble. Vous regardez un tableau des impressionnistes de loin, magnifique. Vous mettez le nez dessus, vous allez voir la touche qui en soi n'a rien de beau. Eh bien, si on pouvait se placer du côté de Dieu, du point de vue de Dieu, alors on comprendrait l'ordre caché du cosmos. Mais nous, on a le nez fixé sur le détail. Vous voyez la position de Leibniz. Le mal s'explique ici rationnellement. Très, très, très célèbre. Très célèbre, c'était un génie universel, Leibniz. Mais il va trouver un contradicteur génial aussi dans la personne de Voltaire. À leur époque, il va y avoir un désastre terrible qui est le tremblement de terre de Lisbonne. C'est un tremblement de terre qui va dévaster la ville, il va faire des dizaines de milliers de morts, un désastre complètement incompréhensible, qui va impressionner tout le monde. Est-ce qu'on peut rendre raison d'une telle horreur? Or, je vous rappelle, on est à l'époque des Lumières et on croit vraiment à la puissance de la raison, au triomphe de la raison. Mais là, on se sent quand même démuni. Et Voltaire va écrire un premier texte qui est « Poème sur le désastre de Lisbonne ». Vous trouvez ça sur Internet, très bien, qui nous fait déjà comprendre que le meilleur des mondes possibles, c'est un peu dur à avaler. Et puis, il va écrire Candide, ce petit conte que vous avez peut-être étudié à l'école, conte philosophique, dans lequel on voit Candide, le héros, qui au fil de ses pérégrinations rencontre toutes sortes d'horreurs. Et à chaque catastrophe, il s'interroge. Qu'est-ce que c'est que ce mal? D'où vient ce mal? Ce mal est une énigme. Mais sous l'influence de son maître, Pangloss, il est poussé à penser que, je le cite, « ce ne sont que des ombres à un beau tableau ». Vous voyez Leibniz, hein? Alors on fait immédiatement le parallèle. Et donc, tout est arrangé pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Phrase qui revient sans cesse dans sa bouche. Il va de catastrophe en catastrophe, mais non, tout est arrangé pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement. On sent très très bien dans tout le texte ce que Voltaire en pense. En fait, il tourne un peu en ridicule la position de Leibniz. Justifier le mal en considérant qu'il est toujours la condition d'un bien supérieur, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour Voltaire, il ne faut pas chercher à comprendre comment marche le monde. Les desseins de Dieu échappent aux hommes, les spéculations ne mènent à rien. La position de Voltaire, c'est que le mal est un scandale injustifiable, qu'il n'y a pas d'explication rationnelle qui tienne. Que faut-il donc faire? Réponse du derviche dans la conclusion de Candide, te taire. C'est amusant, hein? On retrouve Job, hein? Te taire. Deuxième type d'explication irrecevable, donc ça c'est, vous voyez, toute la réponse des théodicées. Justifier Dieu de l'existence du mal. L'innocenter Dieu. Deuxième type celle qui consiste à dire que le vrai responsable du mal dans le monde, c'est l'homme que Dieu a créé libre. Alors, c'est une explication peut-être qui vous révolte, mais qui a été beaucoup, beaucoup utilisée, notamment en catéchèse, en tout cas à une époque. On présente la création, tout va bien, et puis on invoque le fameux péché originel sur lequel on reviendra. Dieu est bon, et si tout va mal, c'est parce que l'homme a désobéi. Et on invoque le mauvais usage qui fait de sa liberté. Alors, vous comprenez bien pourquoi c'est irrecevable. Considérer que le mal dans le monde vienne grosso modo de ce qu'Adam et Ève aient mangé une pomme et qu'à cause de ça, on puisse être responsable de tout le mal présent à venir, c'est quand même un peu gros à avaler. L'homme n'est pas à l'origine du mal. Il porte sa part de responsabilité, mais certainement pas dans ses proportions. Oui, il est libre, mais sa liberté n'est pas à la mesure du mal du monde. On ne peut pas faire de tout le mal qui l'entoure, dans tout ce qu'il a de scandaleux, uniquement un mal voulu ou provoqué par lui. Ça, c'est vraiment de la mégalomanie. Donc, n'accusons pas l'homme de tous les maux. Et puis surtout, n'oublions pas non plus parmi nous tous ceux qui se retroussent les manches, parfois au risque de leur vie, pour combattre ce mal. Mais ces deux explications du mal, le mal, la touche du tableau nécessaire à la beauté de l'ensemble, et le mal dont l'homme serait entièrement responsable, ces deux explications qui ne colle pas. Et pour terminer sur l'homme, je peux remarquer à nouveau que la Bible ne dit pas que l'homme aurait instauré le mal dans le monde. D'où la figure du serpent dans Genèse 3. Le mal, ou plutôt la tentation du mal, elle vient par l'intermédiaire de cet être, par quelque chose qui nous échappe, qu'on ne comprend pas, vient d'une présence, d'une réalité malfaisante dans la création, dont on se demande d'où elle sort, qui apparaît à un moment où le mal n'est pas censé exister, mais dont on voit qu'elle a une influence sur l'homme. Mais ce n'est pas l'homme qui introduit le mal. L'homme, il va introduire le consentement à ce mal. Un peu différent. On n'est jamais des initiateurs absolus du mal. Donc, vous voyez, deux types d'explications irrecevables. Faire du mal comme la contrepartie du bien ou en rejeter toute la faute sur l'homme. Et j'ai encore un pas plus loin. Même l'origine du mal dont on est responsable est inscrutable. Même le mal comme faute, hein, celui qu'on commet, même celui-là, pour une part, est inexplicable. Je vais faire dernier petit tour en philosophie, et puis après, on va vraiment revenir en théologie. Mais je le fais parce que cette question-là, du mal, tout le monde se la pose. Pas besoin d'être chrétien pour se la poser. Hein. Vous savez que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans la collection de Guéchet, Dieu pour penser, la question du mal, c'est son premier tome. Parce que c'est la question auxquelles personne n'échappe jamais. Ben, la philosophie, elle aussi, elle bute. La Bible bute, mais la philosophie aussi, elle bute. Elle donne trois petits flashs. Un mal inexplicable, c'est ce qu'exprime Kant avec l'idée de mal radical, c'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue. Kant dit, mais tout le monde voit bien le mal, le bien, tout le monde voit bien le bien qu'il a à accomplir, tout le monde reconnaît son devoir. D'où ça vient cette tendance, alors, ce penchant qui est toujours déjà là en nous à privilégier notre satisfaction, nos intérêts, nos désirs égoïstes, notre petit moi ? Pose la question. Et il ne répond pas en disant que la nature humaine est corrompue. Il invite plutôt à reconnaître une précédence, une espèce de précédence du mal par rapport à chacun de nos actes, un mal qui est toujours déjà là. C'est pour ça qu'il appelle un mal radical, son expression, parce que c'est un mal qui est à la racine de la liberté humaine. Et il dit, le fait que ce mal-là existe, fondamentalement, c'est incompréhensible, inexplicable. Autre philosophe, beaucoup plus proche de nous cette fois-ci, c'est Hannah Arendt. Alors, tu partages ? Partager. Voilà. Partager. Hannah Arendt. Alors, l'idée de Kant, c'est mal radical, à la racine de tout, inexplicable. L'idée d'Hannah Arendt, c'est banalité du mal. Alors, Hannah Arendt, c'était une juive allemande qui avait émigré aux États-Unis. Et elle va couvrir pour un très grand journal américain le procès de Eichmann à Jérusalem en 1961. Eichmann était le SS qui était responsable de la solution finale. Et il avait échappé au procès de Nuremberg, il a été capturé en 61, et donc son procès se déroule à Jérusalem. Elle va courir le procès, elle va écrire des articles qui vont être rassemblés dans un livre qui s'appelle « Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal ». Et qu'est-ce qu'elle constate ? L'inimaginable médiocrité de la personne d'Eichmann.
Excusez-moi de vous interrompre, si ça vous intéresse, il y a le film « Anna Arendt » sur la plateforme TV. Et moi, je trouve ce film extraordinaire.
Excellent, il est excellent.
Excellent, excellent. Voilà.
Et dedans, vous verrez dans ce film, si vous le regardez, c'est excellent. Vous avez aussi Hans Jonas, dont on parlera tout à l'heure.
Il a voilà, parlé... voilà, tout à fait.
Ouais. Ça, dans quoi tu dis
Anna Arendt. Il est sur la plateforme France TV.
Ah, d'accord.
Auquel vous pouvez avoir accès.
Ok, merci Claire.
Gratuitement.
Oui, vraiment, ça vaut le coup. Et qu'est-ce qu'elle constate ? Eh ben, on dit d'habitude le mal est considéré comme quelque chose de démoniaque, mais pas chez Eichmann. Elle dit qu'il était juste dans l'incapacité de penser. Ce n'était pas un criminel né, ce n'était pas un malade mental, c'était juste un rouage dans une espèce de machine bureaucratique aveugle où les hommes avaient perdu toute idée d'éthique. Du genre, on m'en a donné l'ordre, j'ai obéi aux ordres, un serment est un serment, point barre. Et donc elle dit que ben, le mal se révèle plus radical que tout ce qu'on avait osé prévoir. Un mal absolu sans rapport avec un comportement humain. Et donc, elle en vient à récuser le concept de mal radical, préférant mettre en évidence la banalité du mal, la banalité ou la normalité de ses auteurs. Voilà ce qu'elle écrit. J'ai changé d'avis, je ne parle plus de mal radical. À l'heure actuelle, mon avis est que le mal n'est jamais radical, qu'il est seulement extrême, qu'il ne possède ni profondeur, ni dimension démoniaque. Il peut tout envahir et ravager le monde entier, précisément parce qu'il se propage comme un champignon. Voilà, il défie la pensée, comme je l'ai dit, parce que la pensée essaie d'atteindre la profondeur, de toucher aux racines, et du moment du mal, qu'elle s'occupe du mal, elle est frustrée parce qu'elle ne trouve rien. C'est là sa banalité. Seul le bien de la profondeur est peut-être radical. Voilà, le mal défie la pensée. Elle essaye de toucher aux racines, elle ne trouve rien. Il n'y a pas, on retrouve toujours sur cette même idée, il n'y a pas de savoir qui maîtrisait le problème du mal. Et dernier point, le petit livre que je vous ai mis dans la bibliographie de Ricoeur, tout petit livre, ceux qui veulent vraiment aller plus loin, ça vaut le coup de lire ce livre, lui aussi souligne l'expérience d'une forme d'impuissance face à la puissance d'un mal qui est déjà là, avant même toute intention délibérée de faire du mal, avant toute initiative mauvaise. Voilà. Et en fait, vraiment, je crois que c'est ce sentiment d'appartenir à une histoire du mal toujours déjà là pour chacun qu'exprime le mythe de Genestron. Voilà, donc, vous voyez, on n'avance pas beaucoup. Scandale incompréhensible.
Le mythe de qui, vous avez dit ?
De Genèse 3, avec le serpent, etc. Donc, on est devant un scandale qui est incompréhensible. On est devant ce qu'on appelle une aporie de la pensée, une impasse, aporos, une impasse, pas de chemin. On cherche la raison d'être du mal, on ne la trouve pas. Alors, est-ce qu'on s'arrête là ? Et non, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir s'engager dans la question et y risquer Dieu. D'où la troisième partie, Dieu et le mal. Est-ce que ça va ? Vous voyez, c'est des idées qui sont quand même très simples, mais en fait qui sont peut-être pas évidentes à accepter. Le mal n'est pas ce qu'il y a de plus originaire. Le mal est un scandale incompréhensible. J'ai pas mon plan sous les yeux.
Mais Aude, moi je suis assez d'accord avec cette idée que le mal non radical et le fait que moi je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que nous on aurait fait à leur place, comment nous on aurait réagi si on avait été à leur place. Est-ce qu'on aurait obéi ? Est-ce que je sais pas ? Est-ce qu'on aurait réfléchi nous ? Est-ce qu'on aurait été des résistants ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que même s'ils ont suivi une pensée unique, celle d'Hitler, ces gens-là, il n'empêche qu'ils ont quand même pris du plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Et là, il y a quand même cette notion du mal.
Alors, Hitler lui-même, on n'est pas obligé de parler
des gens. Bien sûr. Non, mais parce qu'elle parlait d'Eichmann. Elle parlait d'Eichmann, là, donc je reprenais l'exemple d'Eichmann, mais effectivement.
Et la base lui-même, en fait, c'est là. La base lui-même, c'est Hitler. Après, ce qui suit, bon, mais la base lui-même, Hitler.
Alors, vous allez voir. Vous allez voir, on va beaucoup revenir sur cette période-là, parce qu'en fait, c'est un tournant en théologie, cette période-là. Alors, peut-être que peut-être que les choses vont s'éclairer, là aussi. Enfin, s'éclairer. Oui. On,
Moi, ce que je me disais, c'est le fait d'avoir pris du plaisir, ils ont quand même eu une jouissance du mal qu'ils faisaient. Est-ce que là, la notion du mal, tu vois, elle est, on peut toujours dire que le mal n'est pas radé.
C'est pas la même question. La même question, là, on est en train, dans ce paragraphe, on est en train de chercher une explication. Mmh. Et là, les réponses d'Eichmann, c'est toujours la même. Bon, on m'a dit de faire ça, moi j'étais SS, j'ai signé pour être SS, je reçois les ordres, etc. On n'en est même pas là-dedans, tu vois.
Mmh. D'accord, ok.
Alors, à la question, est-ce que ça va? Moi, j'ai la nausée, hein, en fait. Hein.
Ah, ouais, mais vous n'avez pas fini. Là, vous n'avez pas fini. Mais... Je suis désolée, hein, parce que, je veux dire, ce cours-là...
Non, j'adore le thème. Hein. J'exprime juste que quand on... Enfin, voilà, c'est...
C'est comme dit Cheng, il y a beaucoup de lait, mais pour que le lait existe, il y a beaucoup de beau.
Ah, de lait, elle a idée.
Ouais, j'avais pas compris.
Elle a idée. Si le lait existe, c'est qu'il y a beaucoup de... Si le mal existe, c'est qu'il y a beaucoup de bien.
Ça reprend le premier thème, avec la touche des impressionnistes, voilà. Mais c'est pas ça, non. La réponse, elle arrive.
Non, vous allez voir la réponse. Non.
Elle n'arrive pas.
Vous allez voir. Il y a aporie.
Il y a aporie de la pensée. On est dans une impasse pour la pensée, et j'ai essayé de vous le montrer d'un point de vue religieux, biblique, d'un point de vue de Jésus, qui ne donne pas d'explication. D'un point de vue de la philosophie, puisqu'à travers, il y a eu des tentatives de résolution, les théodicées par exemple, mais en même temps, on arrive quand même à une aporie de la pensée. Kant, Hannah Arendt, vous allez en voir d'autres derrière. Finalement, on en revient à cette même question, devant quelqu'un qui souffre, est-ce que vous lui donnez une explication à sa souffrance? Vous voyez que ça sonne, c'est à côté de la plaque. La réponse n'est pas là. Donc il n'y a pas de solution. De résolution du problème au problème du pourquoi du mal.
On dit parfois plus vite au paradis.
Ben, ça, on pourra en parler. Alors malheureusement, c'est encore des choses que je n'ai pas le temps d'aborder. On peut en parler un petit peu après si vous voulez. On est vraiment encore plus loin là, dans l'avancement du. J'essaye d'aller pas par pas. Ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait personnellement. Alors, on en reparlera après. En tout cas, Non,
sur le salut.
C'est-à-dire ce que je vais dire après, donc on continue. Alors, Dieu est le mal. Donc là, ce qu'on va faire dans cette partie, c'est qu'à un moment, il faut poser la question de Dieu dans tout ça. Regardez, Job, c'est bien Dieu qui prend à partie, c'est Dieu qui l'invective. Pour Job, la question du mal, c'est bien la question de Dieu. Et vous savez que la question du mal, c'est souvent la grande objection qu'on a faite à l'existence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui refusent de croire en raison de la somme de souffrance qu'ils voient dans le monde, dans leur vie. Tous ceux qui ont perdu la foi à cause de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Est-ce que c'est un Dieu tout-puissant qui pourrait tout arranger à sa guise? Est-ce que c'est un Dieu qui culpabilise? Est-ce que c'est un Dieu qui châtie? Si on imagine Dieu comme ça, est-ce qu'on n'a pas raison de ne pas y croire, hein? Donc, vous voyez, cette histoire, c'est vraiment la question de Dieu qui est en jeu. Et peut-être qu'il convient de poser cette question de Dieu autrement qu'en cherchant à le disculper, comme le font les théodicées. C'est ça qu'on va voir. Première remarque, la situation propre du judéo-christianisme. Je vais aller un petit peu plus vite, je crois là. Ce que je vais dire, c'est que le christianisme, c'est peut-être la seule pensée qui permette de garder au mal son caractère scandaleux. Parce que dans d'autres systèmes de pensée, on va essayer de trouver des tentatives de résolution du mal qu'il faut entrer dans un système, alors que pour les chrétiens, ça reste toujours un mal absolu qui doit être absolument combattu. Tout simplement parce que ce mal n'entre pas dans le dessein initial de Dieu. Et donc, on ne comprend pas ce qu'il vient faire. Et du coup, on est profondément choqué et révolté par son irruption. Mais si je prends, je vais vite, mais si je prends la Grèce antique, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, qui est sous le règne de la fatalité, ben le mal, il appartient au destin. Je vais vous montrer la foudre de Zeus. Voilà, le mal appartient au destin. Donc, bon, ben voilà, il faut accepter l'ordre du monde, on n'y peut rien, on se soumet, on accepte. La sagesse, c'est peut-être essayer de tenir debout là-dedans, mais on ne se bat pas, c'est comme ça. Si je prends le bouddhisme en Orient, eh bien, quand Bouddha va être confronté au mal et il comprend que personne n'y échappera, il va être confronté sous la forme de la maladie, de la vieillesse, de la mort, il cherche une voie de salut, où est-ce qu'il la trouve? Eh bien, l'éveil, pour lui, ce sera de découvrir que c'est le désir qui est à l'origine de la douleur. Donc, il faut éteindre le désir. Le christianisme n'est absolument pas dans ce registre-là. Elle reconnaît en l'homme un être de désir, et la foi ne cherche pas à neutraliser ce désir. Et elle ne dit pas, comme le bouddhisme, que la foi, que le mal est quelque chose d'évanescent. Non. Si je prends la gnose ou le manichéisme, les systèmes dont on a parlé tout à l'heure, le mal qui s'explique par l'existence d'un dieu mauvais en lutte avec un dieu bon, ben là, on est sur un champ de bataille, on sait ce qui se passe, le mal est une donnée, mais on ne se pose pas le problème du mal de la même manière qu'en christianisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, en christianisme, comment est-ce qu'on va se saisir de la question ? C'est mon point 3.2. Là encore, je dis tout de suite, il va y avoir des impasses à éviter. Et là-dessus, je vais vraiment m'attarder sur peut-être celle qui me paraît la principale. Une fausse image de la toute-puissance divine qui font que bonté et toute-puissance ne peuvent aller ensemble. On dit, Bouddha. Alors, vous voyez le problème. On dit, dans le christianisme, comment le mal peut exister et Dieu être à la fois bon et tout-puissant. Dans une controverse à trois termes, le mal, la bonté et la toute-puissance. Donc, si le mal existe, soit Dieu n'est pas tout-puissant, ou alors c'est le plus Dieu, soit il n'est pas bon, mais alors est-ce que j'ai envie de donner ma foi à ce Dieu-là ? Donc, si on pose la question comme ça, on présuppose une conception de la toute-puissance qui est très particulière, mais qui est celle qui nous vient d'abord en tête, la toute-puissance dans le sens d'une domination absolue, de pouvoir mettre la main sur la réalité. Or ça ne correspond pas au Dieu chrétien. Dans les credos anciens, quand on parle du Christ Pantocrator, c'est le mot qui dit tout-puissant, de pas en grec tout et kratein, maîtriser, mais aussi porter, tenir. Pantocrator, en fait, ce n'est pas le Dieu qui maîtrise tout, c'est celui qui tient tout. C'est celui qui nous tient dans l'être. Et cette toute-puissance, elle ne signifie pas qu'il va tout maîtriser, tout dominer. Et alors là, pour venir sur cette question de la toute-puissance, c'est là où, après Eichmann, je vais évoquer un événement vraiment majeur pour la théologie, qui est Auschwitz. Et majeur déjà en théologie juive, parce qu'il a fallu se confronter à la réalité et à la réussite d'un mal délibéré, inconcevable, paroxystique. La question, elle est tout simplement, Dieu était-il à Auschwitz ? Quel est ce Dieu qui a pu laisser faire cela ? Et ça, c'est la question que pose le philosophe juif Hans Jonas, qu'on voit justement dans le film de François Arène. Est-ce qu'il est encore possible de penser Dieu après Auschwitz ? Parce que Auschwitz met en concept tout le concept traditionnel de Dieu. Pour un juif, Dieu, c'est le seigneur de l'histoire. Alors, dit Jonas, si on ne veut pas se séparer du concept de Dieu, de l'idée de Dieu, eh ben, on est obligé de le repenser à neuf. Vous voyez, on est en philosophie, là. Sa thèse est forte, c'est que l'expérience d'Auschwitz nous conduit à penser, non pas que Dieu n'est pas concerné par la situation, mais qu'il n'est pas tout puissant. Et je vous renvoie à un très petit livre que vous trouverez au CIF, Le concept de Dieu après Auschwitz. Je vais expliquer. Vous vous souvenez que ce qu'on avait dit dans le cours sur la création, c'est que d'emblée, la création suppose un retrait, le fameux Tsimtsum. Un retrait qui est positif au départ, c'est-à-dire que pour permettre au monde d'être, Dieu renonce à être tout. Et donc, dans le simple fait de créer un monde qui a ses propres potentialités, un être humain qui a sa propre liberté, déjà, il y a un mouvement de renoncement à sa puissance, une forme de dépossession. Et bien, Jonas va beaucoup plus loin encore. Et pour des raisons inspirées par l'expérience d'Auschwitz, il dit, propose un Dieu qui, pour un temps, se dépouille de tout pouvoir de s'immiscer dans le cours physique des choses. Voilà ce qu'il dit. Et moi, je dis maintenant, si Dieu n'est pas intervenu, ce n'est point qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne le pouvait pas. À Auschwitz, silence de Dieu. Il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu des miracles, mais c'était des miracles humains. C'était ceux des justes renonçant à sa propre invulnérabilité, le fondement éternel a permis au monde d'être. C'est le fameux Tsimtsum. Toute créature doit son existence à cette négation et a reçu avec cette existence ce qu'il y avait à recevoir de l'au-delà. Dieu, après s'être entièrement donné dans le monde en devenir, n'a plus rien à lui offrir. C'est maintenant à l'homme de le lui donner. Et il peut le faire en veillant à ce que dans les cheminements de sa vie, n'arrive pas, ou n'arrive pas trop souvent, et pas à cause de lui, l'homme, que Dieu puisse regretter d'avoir laissé devenir le monde. Ah, c'est une idée qui est quand même très, va très très loin. C'est l'idée d'un Dieu qui se retire tellement, qui confie totalement à la création et à l'homme leur propre destin. Le devenir du monde, le destin du monde, est remis entre les mains de l'homme, avec une question fondamentale, celle de notre responsabilité. Donc pour Jonas, dans le concept de Dieu, c'est la toute-puissance qui doit céder la place. Ça, c'est une proposition de la pensée juive, mais Antionas, ce n'est pas un petit philosophe. Hein. Alors vous me direz, est-ce qu'il y a des points de rencontre avec la théologie chrétienne ?
Sur le retrait. Désolée, j'ai juste une question. On m'a dit, pourquoi n'y a-t-il pas eu de miracles ? Il y a eu des miracles, certes, ceux des justes, et je n'ai pas compris cette notion. C'est quoi les miracles des justes ? C'est des miracles ponctuels parmi quelques personnes, miraculés ?
Les petits miracles des humains. Quand il y a eu des petits miracles, c'était les miracles des petits humains qui ont fait, qui ont réussi à renverser le cours des choses. L'action des hommes, c'est ça que je veux dire.
D'accord.
Les justes qui ont caché, les justes qui ont, ou dans D'accord. les camps, tous les livres dans les camps, les petits miracles qui ont permis que quelqu'un s'en sorte, survive, etc. Alors, est-ce qu'il y a des points de rencontre avec la théologie chrétienne sur le retrait de Dieu ? Oui, certainement. Avec un point de différence majeur, évidemment. Vous voyez lequel ? C'est Jésus. C'est-à-dire dire que nous, on ne dit pas que Dieu s'est totalement retiré du cours du monde, puisque nous, on a Jésus qui est venu nous rejoindre, qui est venu nous chercher, qui est venu nous sauver. Mais il empêche ce qu'on voit dans le monde appelle vraiment de toute façon une correction de ce que c'est que la toute-puissance de Dieu. Pour vous le faire mieux comprendre, je vais vous prendre deux autres exemples de personnes très différentes, mais qui disent des choses un peu semblables. La première, ah ben voilà, ça c'est encore... Voilà. Est-il Soum, vous peut-être connaître, donc Antionas, il écrit après la guerre. Mais pendant la guerre, il y a quelqu'un qui a dit tout à fait les mêmes choses, sous une forme très différente dans le style. On est dans un style beaucoup plus mystique, poétique, plus sensible. Est-il Soum, peut-être que vous avez lu ses livres, c'est vraiment formidable, ses journaux plutôt, ses lettres. Donc elle était juive aussi, elle était hollandaise. Elle s'est beaucoup dépensée pendant la guerre pour tous les juifs persécutés, à un moment où en Hollande, il y avait une période de persécution vraiment intense, avec des camps, notamment à Westerbork, elle raconte, tous les jours, il y avait des listes de personnes qui devaient partir. Elle-même, elle a fini déportée, elle a été gazée à Auschwitz, elle avait 29 ans, et elle a laissé son journal, qui a été publié sous le titre d'Une vie bouleversée, qui est vraiment un best-seller incroyable. Et dans ce journal, on voit le témoin de son itinéraire intérieur qui l'a conduite, la situation l'a vraiment conduite à entrer dans un dialogue incessant avec Dieu. Et vous allez voir qu'il y a des passages où on retrouve tout à fait la conviction de Jonas, très approchant, sauf que c'est dit sous la forme d'une prière, ici, en tout cas dans ce passage. « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, mon Dieu. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque. C'est aussi la seule chose qui compte un peu de toi en nous, mon Dieu. Et peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans le cœur martyrisé des autres. Ce n'est pas toi qui peux nous aider. Renoncement à une forme de toute puissance de Dieu. Mais c'est nous qui pouvons t'aider. Il faut commencer par ça. C'est une manière de dire à quel point à la fois Dieu est concerné par la création, par ce qui se passe, mais à quel point il dépend de l'homme. Elle dit « Je continuerai à apporter tout le soutien que je pourrai là où il plaira à Dieu de me placer, au lieu de sombrer dans le chagrin et l'amertume. » Puis elle a cette première phrase extraordinaire, « Je vais t'aider à ne pas t'éteindre en moi. Autre manière de dire qu'il faut renoncer à l'idée d'une à une certaine forme de toute puissance en Dieu. Alors vous allez me dire, alors les chrétiens, ben, je vous en donne un autre, troisième exemple, toujours à la même époque, c'est Dietrich Bonhoeffer, pasteur théologien, protestant, allemand, qui était un des pivots de l'Église confessante. L'Église confessante, c'est celle qui avait résisté à Hitler. Et puis, il va tremper dans un complot contre Hitler. Il va être arrêté et il va être pendu par les nazis à la fin de la guerre. Mais pendant sa captivité, eh ben, il va pouvoir engager une correspondance avec un de ses amis qui va publier ses lettres sous le titre de Résistance et Soumission. Et vous allez voir que lui aussi parle retrait, silence, impuissance de Dieu. Dieu sur la croix se laisse chasser du monde. Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement il est avec nous et il nous aide. Nous ne pouvons être honnêtes sans reconnaître qu'il nous faut vivre dans le monde, etsi non daretur. Ça veut dire comme si Dieu n'était pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Comme si Dieu n'était pas. Ça veut dire sans un Dieu bouche-trou, un Dieu qui vient expliquer, ou un Dieu qui est un recours à nos problèmes. Un peu comme l'enfant dont les parents lâchent la main et qui doit se conduire seul, puis devenir adulte. Eh bien, Dieu, autre manière de dire que Dieu nous confie la gestion de la création, la gestion de notre vie, et qu'on est un peu, dans cette situation catastrophique, un peu dans la situation, même pas un peu, dans l'exacte situation de Jésus en croix. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et réponse, devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Voilà la phrase que va dire, parce que je l'ai écrite, non, je ne l'ai pas écrite, voilà ce qu'il dit, devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Vivre sans Dieu, ça ne veut pas dire qu'on nie Dieu, ça ne veut pas dire qu'on mène une vie indifférente à Dieu, mais ça veut dire qu'on doit mener sa vie dans un monde, mener sa vie, une vie qui doit être assumée sans référence immédiate et permanente à Dieu, mais devant lui, et avec lui, et avec la force de son esprit. C'est toujours la même idée, de nous guérir d'une notion de la toute-puissance qui ferait de Dieu un potentat, c'est-à-dire quelqu'un qui possède un pouvoir absolu. La puissance de Dieu, c'est deux choses, c'est la force de limiter sa propre puissance, et il faut beaucoup de puissance pour faire ça. Exemple, c'est Jésus qui, au moment de la croix, bah, résiste peut-être à la tentation de convoquer des légions d'anges pour venir le sauver, mais qui va jusqu'au bout. Et c'est la puissance de Dieu le Père qui laisse se faire les choses au lieu d'intervenir. Et la puissance de Dieu, surtout, c'est d'aller jusqu'à l'extrême de l'amour. Et à la lumière du Christ, on va pouvoir parler d'un Dieu tout-puissant en amour. C'est-à-dire d'un Dieu qui a le pouvoir d'aller jusqu'au bout de l'amour, d'aimer quoi qu'il arrive. On en redira un petit mot tout à l'heure. Vous voyez, première impasse, une image fausse de la toute-puissance.
Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt à l'homme, dans ces cas-là, qu'on demande d'aller au bout de l'amour.
Ben oui, bien
pour
sûr.
Pour Dieu, plutôt que... Parce que quand on est celui qui, par la fatalité du mal, qui n'est pas créé par l'homme, hein, mais qui coexiste, ça vous tombe dessus. On vient de dire la puissance de Dieu consiste à aller à l'extrême de l'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est l'homme qui doit aller à l'extrême de l'amour pour Dieu pour en sortir par le haut.
Jusqu'à l'extrême de l'amour, le chemin étant tracé par le Christ.
Oui.
Donc, c'est dans une suite du Christ, en fait. Mais, alors, vous voyez, on va aborder ça un petit peu dans la dernière partie, la réponse qu'on peut apporter. Parce que vous voyez comment, là où j'en suis
Oui, il me semble que Jésus, c'est une mauvaise interprétation de dire que Jésus se sent abandonné par Dieu. Je pense que c'est une erreur.
Pourquoi vous dites ça ?
Bah, je le pense. Je pense qu'il ne renie pas Dieu. Il va jusqu'au bout. Et donc, Dieu est avec lui jusqu'au bout.
Oui. Dieu est avec vous. Là où je vous rejoins, c'est que dans le
D'ailleurs, comment peut-on résister sans Dieu au mal? Comment peut-on, même simplement physiquement, moralement, résister à la douleur, aux difficultés, sans le recours de Dieu?
Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit, parce que, comme vous le dites, quand il reprend les mots du psalmiste sur la croix, c'est sous la forme d'une prière qui s'adresse encore à Dieu, comme Job s'adresse encore à Dieu. Donc, il n'a pas fait une croix sur Dieu. En même temps, vous ne pouvez pas lui retirer ses dernières paroles sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, vous ne pouvez pas le retirer. Vous ne pouvez pas retirer...
Mais ce n'est pas ses dernières paroles.
Ben, il y en a 7 paroles sur la croix, et celle-là, vous ne pouvez pas faire qu'elle n'ait pas existé.
Non, parce que c'est le Jésus homme, là. C'est le Jésus pleinement homme.
Alors, vous allez voir, on en reparlera au moment de l'enfer, dans les dernières séances. Ça, c'est vraiment tous les livres de Balthazar. C'est ce qui dit que... Pourquoi est-ce que Jésus nous... Enfin, d'une manière, et puis après, tous les pères de l'Église, mais sur l'enfer en particulier, c'est que le Vendredi Saint, Jésus a vécu l'extrême de la souffrance, mais le Samedi Saint, dans sa mort, là, il a rejoint tout homme dans le pire, qui est la séparation totale d'avec Dieu. Et pour Balthazar, qui reprend vraiment des idées des pères de l'Église, c'est que pourquoi est-ce que Jésus nous sauve? Parce qu'il a pu assumer le tout de ce qu'on peut vivre dans une vie terrestre, jusqu'à cette expérience de l'abandon et de la souffrance. Et quand même, cette phrase de Jésus sur la croix, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» elle est quand même le signe, et ça vraiment, mais lisez Balthazar, lisez tous ceux qui parlent de la mort de Jésus en croix. Jésus n'a pas fait semblant d'être mort, et Jésus a vécu vraiment ce combat de l'agonie. L'agonie, c'est combat, hein, c'est ça que ça veut dire. Combat contre la peur, combat contre l'angoisse. Jésus n'avait aucune certitude hors de sa confiance, je dis certitude, je ne parle pas de confiance, qu'il allait ressusciter. Il est passé par la mort, sans savoir ce qu'il attendait. Mais il avait une telle confiance, une telle relation à Dieu, qu'il est mort dans cette confiance. Mais en même temps, confiance illustrée par le fait que son cri monte encore vers Dieu. Mais en même temps, le contenu de ce cri, c'est « Pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Après, oui, mais il dit, oui, mais non, moi, je crois que vous avez, là, vous nous entraînez dans des certitudes que je ne partage pas. Non, il dit au bon larron, tu seras avec moi au paradis ce soir.
Ah, bon,
alors pourquoi ça, prendre une parole et pas l'autre?
Non, mais je prends les deux. Mais il faut, je prends les deux. Je prends les deux. Je prends les deux. C'est une question d'interprétation. Mais autant vous dire que moi, dans ce cours, je ne vous livre pas mon idée personnelle. Hein. Je vous livre le fruit d'un... Je pense qu'il y a des... Enfin bon... certain, c'est que la théologie avance et approfondit les choses au fil des questions qui lui sont posées dans la vie et à chaque époque. Cette question du silence de Dieu dans une période aussi tragique, c'est quelque chose qui a remué tous les chrétiens, tous les théologiens, tous les juifs. Et donc, ça a été un champ pour relire la Bible, pour recreuser notre connaissance de Dieu, ce qu'on sait de Dieu, et essayer d'en découvrir des nouvelles facettes, parce que ces facettes, elles émergent au fil des questions qui se posent. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord, parce que on est dans l'interprétation, on est dans un mystère, donc on ne le saisit pas. Donc, c'est pas des certitudes. Moi, je vous partage la réflexion de grands théologiens, des plus grands théologiens du XXe siècle, hein, des gens qui étaient à la Commission théologique internationale, vous verrez Balthazar, toute sa réflexion sur l'abandon de Dieu et l'abandon de Jésus au Samedi Saint, c'est une part énorme de toute son œuvre. Ce n'est pas ma petite pensée.
Il s'agit de Hans Urs von Balthasar dont on parle.
Oui.
Ok, merci.
C'est un Varignon qui a écrit.
Pour l'enfer et l'abandon de Jésus au Samedi Saint, tout ça c'est lui.
Et pourtant, il connaissait les Écritures.
Ah bah tous, bah non mais bien sûr, bah tout est fondé là-dessus, hein. Mais pas que là-dessus, sur une tradition, sur des questions qui se posent à frais nouveaux et qui obligent à approfondir la réflexion dans d'autres champs. Pourtant, je ne cherche pas à vous convaincre, et vous verrez qu'en plus, je n'ai jamais de réponse. J'essaie de dire des choses très simples, que le mal n'est pas ce qu'il y a de plus originaire, que c'est un scandale incompréhensible, que cette question du mal, elle oblige, si on met Dieu dans la question, à recreuser l'image qu'on se fait de Dieu. Est-ce qu'on le voit comme celui qui peut intervenir à tout bout de champ dans le monde et régler les problèmes? Or, Dieu se tue à Auschwitz. Pourquoi? Pourquoi? Réponse de Dietrich Bonhoeffer, vivre devant Dieu et avec Dieu sans Dieu. C'est-à-dire que, de même que Dieu n'a pas envoyé ses légions d'anges pour faire descendre Jésus sur la croix, comme le soldat lui disait, ben, si celui-là, si tu es Eli, Eli, la massa d'Akhtani, ben, si tu es Eli, demande à Dieu de te descendre de la croix. Dieu ne l'a pas fait. Dieu n'est pas intervenu à Auschwitz. Qu'il n'y soit pas présent, on va y revenir. Je vais essayer d'avancer et on va y revenir. Mais pas sous cette forme-là, miraculeuse, de manipuler les choses ou de tirer les fils comme des marionnettes. C'est la seule chose. En fait, j'essaie de poser le problème, mais là, effectivement, sur cette réponse-là, j'ai aucune certitude, juste des pistes que je vous propose. Je ne cherche pas à vous convaincre, d'ailleurs. Des pistes que je vous propose. Et après, la seule chose que j'ai envie de dire, lisez. Parce que, évidemment, moi, je fais un truc qui est presque caricatural. J'ouvre des petits chantiers. Je ne peux pas du tout les creuser comme je voudrais. Vous allez voir les deux autres impasses. Je ne vais même pas les creuser. Je vais juste les citer, mais je ne les creuse pas. Ça, c'est des chantiers en eux-mêmes. Mais lisez tous ces livres que je vous lis. Regardez les notes de bas de page. Regardez à qui ils renvoient, aux d'autres ouvrages qu'ils renvoient. Et comme ça, vous faites votre culture personnelle et votre pensée personnelle sur la chose. Mais les pensées qui seront en évolution, parce que, voilà, c'est jamais fermé. Mais ce n'est pas des certitudes, ça c'est sûr.
Oui, bah enfin, le destin du peuple juif aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a eu Auschwitz, mais enfin, il y a d'autres peuples qui ont été assassinés aussi. Mais aujourd'hui, la situation du peuple juif est peut-être meilleure que ce qu'elle était avant la guerre.
Oui, qu'est-ce que vous voulez
dire? Où il y avait des pogroms réguliers, personne ne s'en occupait, voilà. Donc non, aujourd'hui, le peuple juif, il a un état, il en est tiré quelque chose finalement de positif. Enfin bon.
Mais c'est pas ça. C'est pas du tout ma question. Ma question, c'est celle de Jonas, de Eti Hilsum, de Dietrich Bonhoeffer. Pourquoi Dieu s'est-tu? Pourquoi ce silence de Dieu? Et pourquoi ce silence de Dieu sur la croix? Jésus pose la question. Jésus, on ne peut pas dire autre chose. Jésus pose la question. Après. Chacun interprète. Mais l'idée, ce n'est pas de vous convaincre du tout. L'idée, c'est d'ouvrir des pistes et puis chacun en fait ce qu'il veut. Et si ça aide à penser un petit peu plus loin ou à bousculer, en tout cas, de ne pas voir Dieu comme celui qui intervient à tout bout de champ. Voilà. Là, je vous ai donné 3 témoins, mais je peux vous en donner beaucoup d'autres. Lisez le livre de Jacques Sommet. Voilà, il y en a plein, plein d'autres. Mais prenez dans la bibliographie. Il y a déjà pas mal de choses. Bon, alors, je donne les deux toutes impasses, je les cite simplement. Pensez Dieu comme celui qui sait tout à l'avance, qui savait déjà que la création tournerait mal. Et à ce moment-là, on peut se demander, ben, s'il savait tout à l'avance, pourquoi est-ce qu'il a laissé faire? Troisième impasse, l'idée que Dieu permettrait le mal. Et là encore, hein, on peut ouvrir le champ des discussions. Est-ce que Dieu permet le mal? Il y a certains qui disent oui, et même chez les théologiens, il y a 5 personnes qui l'admettent. Et il y en a d'autres qui refusent cette hypothèse. C'est complètement discutable. Pourquoi est-ce qu'il le permettrait dans certains cas? Pourquoi est-ce qu'il l'empêcherait dans d'autres? Est-ce qu'on n'en arrive pas à une monstruosité divine du genre Dieu qui protégerait dans un bombardement ceux qui prient, pas les autres? Enfin, vous voyez, on peut aller très loin. Voilà, la tendance générale de ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu n'est pas un potentat qui respecte, d'une certaine manière, les causalités internes de sa création, qui respecte pour une part la liberté de l'homme, que ce n'est pas un Dieu de l'arbitraire. Voilà. Et simplement une prise de conscience que la manière dont on se situe face au mal, au scandale du mal, notamment en voulant asséner des explications, a des conséquences énormes sur l'image qu'on se fait de Dieu et qu'on propose de Dieu. Et que de ce point de vue-là, il faut être très prudent. et que de vouloir l'innocenter à tout prix, ce n'est pas forcément la bonne manière. Alors, je vais essayer d'aller pour terminer, mais le renversement du problème en Jésus-Christ. Alors là, vous, tout ça, par exemple, si vous voulez en lire plus, vous regardez beaucoup Adolphe Guéché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu plus loin. J'ai essayé de vous dire tout à l'heure que dès le départ, on remarque dans les livres de l'île de la jeunesse que Dieu n'a aucune complicité avec le mal. Il apparaît presque comme le premier surpris par ce qui arrive avec le serpent. Mais je passe à Jésus. Dans ce combat contre le mal, et on voit simplement que dans en Genèse 3, que Dieu s'engage dans le combat contre le serpent. Dans ce combat, on peut dire une chose, c'est que Jésus va être totalement impliqué. Lui non plus ne donne pas d'explication au mal, mais il manifeste par toute sa vie l'engagement de Dieu face au mal et sa solidarité avec l'humanité qui souffre de ce mal. Pas simplement parce que partout où Jésus a passé, il a tenté de faire le bien, mais aussi parce que partout où il a passé, il est celui qui a lutté contre toutes les formes de mal. La lutte contre le mal moral, quand il dénonce l'hypocrisie, quand il dénonce le mensonge, quand il dénonce l'égoïsme, lutte contre le mal physique, quand il guérit les malades, quand il chasse les démons, quand il ressuscite les morts. Le combat de Jésus, c'est vraiment un combat pour faire advenir le royaume de Dieu. En même temps, humainement parlant, ce combat est très limité, très modeste. Sa vie publique, elle a duré 3 ans. Il a vu venir à lui plein de groupes de malades, plein de pauvres. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais son action est restée très limitée. Beaucoup de gens n'ont pas été guéris. Intéressant pour nous dire qu'on n'a pas nécessairement à faire des choses immenses. Et puis, il y a la croix. Et là, sur la croix, Jésus est entré dans un excès du mal, dans une nuit qui n'a plus aucun sens puisque Dieu se tait. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs tableaux qui exprime ça. Jésus portant sa croix au milieu de toute cette foule grimaçante, laide, tous ces visages du mal. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus sur la croix? Il manifeste une solidarité qui va jusqu'au bout dans la souffrance et dans la mort. L'amour jusqu'au bout dont parle Saint Jean dans son récit de la Passion. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. L'amour jusqu'au bout. Et voyez ce qui se passe à ce moment-là. Cet amour jusqu'au bout, il révèle quoi? Un excès de sens là où il y avait un non-sens. J'explique. On a parlé du mal comme d'un excès. Un excès par rapport à la réflexion. Un excès dont la raison ne peut pas rendre compte. Eh bien, Dieu, dans sa réponse, se montre à la mesure de cet excès. Et lui aussi, il va jusqu'à l'excès. Mais un excès inverse. Un excès d'amour, jusqu'à la mort de Jésus en croix. D'un côté, un non-sens du mal, qui excède toute forme de raison. De l'autre, l'amour qui va jusqu'au bout. Un autre excès. Un excès de sens par rapport à une sagesse humaine, par rapport à ce qu'aurait été une réponse humaine. Le mal est une folie. Seule une autre folie peut y répondre. C'est exactement ce que dit saint Paul quand il prêche aux Corinthiens. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Les Juifs demandent des signes, ils recherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons un Messie crucifié. Et voyez les mots, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est ça l'excès. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Vous voyez ce qu'il fait Paul, il renverse complètement les termes du problème. C'est pour ça que ça s'appelle le renversement du problème en Jésus-Christ. Que fait Dieu contre le mal? Il n'explique pas, il dresse sa propre folie, appelée par Paul sagesse. Sa propre faiblesse, faiblesse d'être mise à mort sur la croix, clouée sur la croix, il y a puissance. La croix, c'est la puissance de Dieu révélée en Jésus-Christ. Le mal culmine sur la croix. Il écrase Dieu lui-même. Et en même temps, la croix, c'est l'amour par excellence qui va jusqu'à l'extrême et qui est plus forte que le mal. La toute-puissance de Dieu, voilà ce que je vous propose, c'est que c'est ça. C'est que ça consiste à pouvoir aimer jusque-là. Et vous le disiez, c'est à ce chemin-là qu'on est appelé à qu'on est appelé à suivre. Pouvoir aimer jusque-là, d'un amour plus fort que le mal et que la mort. Ce mystère, certains s'en sont fait l'écho au sein même du judaïsme. Je vous donne deux petits exemples. Elie Wiesel. Donc, Elie Wiesel a été déporté avec sa famille à Auschwitz. Il avait 15 ans. Et puis à Buchenwald. C'est un des survivants. Et il a écrit un petit livre, vraiment, que je vous encourage à lire, qui s'appelle La Nuit, qui est un récit de ce qu'il a vécu. Je vous lis une page, je ne sais pas si elle est dedans. Voilà, c'est lui. C'est lui. Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et 7 fois verrouillée. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour toujours du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme. Et mes rêves où prirent le visage du désert. À travers Céline, vous voyez, c'est vraiment tout d'un coup la mort de Dieu dans l'âme d'un enfant qui tout à coup rencontre le mal absolu. Et il raconte dans ce livre un épisode bouleversant qui est la pendaison d'un adolescent devant les hommes du camp rassemblés. Et donc, ils sont 3 à être pendus. Il y a des 2 hommes adultes qui sont pendus avec lui, meurent rapidement, mais l'agonie se prolonge. Où est le bon Dieu? Où est-il? Demanda quelqu'un derrière moi. Plus d'une demi-heure, il resta ainsi à lutter entre la vie et la mort, agonisant sous nos yeux, et nous devions le regarder bien en face. Derrière moi, j'entendis le même homme demander « Où donc est Dieu ?» Et je sentais en moi une voix qui lui répondait « Où il est ? Il est pendu ici, à cette potence. » Ben, comme chrétien, il divisait les juifs, comme chrétien, le pendu au gibet, vous voyez tout de suite à quoi ça nous renvoie. Ça nous renvoie sur le mystère du Christ. Je ne cherche pas à comprendre, je fais juste des liens. Je vous donne un autre lien. Chagall. Dans un très grand nombre de tableaux de Chagall, pour dire le destin du peuple juif dans ses persécutions, dans son martyre, qu'est-ce qu'on voit? Des crucifiés qui planent dans le ciel. Des juifs, Chagall. Voilà, des crucifiés qui sont à la fois la figure du peuple, du juste souffrant, et à la fois la figure du Christ. Donc, vous voyez, peut-être que j'ai passé trop de temps sur cette période, mais évidemment, c'est une période qui a suscité tellement de questions auxquelles on n'a pas de réponse que ça a stimulé la réflexion. Et ce que je veux dire, et qui est vraiment ça qui est important, et que disent ces 2 dernières anecdotes, et que c'est ça, c'est important de le redire, pour nous, chrétiens, notre Dieu ne s'est pas réfugié au ciel. Il ne s'est pas réfugié au ciel. Il n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, mais comme le dit Claudel, quand même une belle formule, il est venu la remplir de sa présence. Alors vous voyez, vous disiez tout à l'heure, on en sort un peu abruti. De fait, je crois qu'on est devant un abîme. Un abîme, la question est abyssale. Et c'est pour ça que j'ai cette dernière partie, un peu plus courte, mais qui nous invite à sortir de l'abîme. OK, il n'y a pas de solution au problème du mal. On n'arrive pas à en rendre raison. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi la souffrance de l'innocence? On veut du sens, il n'y en a pas. Le mal est non-sens. Alors, est-ce qu'on en reste là? Et là, j'ai envie de dire avec Paul Ricoeur, c'est ce qu'il nous invitait à faire. Il faut tenter, c'est sa formule, de rendre l'aporie intellectuelle productive. L'aporie, l'impasse pour la pensée, puisque toute cette réflexion, elle nous conduit à un impasse. C'est du non-sens, c'est irrationnel. Ne pas se laisser enfermer dans cette impasse, parce qu'il y a un combat à mener. Un combat pour la vie, contre la souffrance et la mort. Le mal, c'est ce contre quoi il n'y a pas d'autre réponse que l'opposition. Passez mon temps à le dire, il n'y a pas de réponse. La réponse, elle est dans l'opposition. Il n'y a pas de solution. La réponse, elle est dans l'opposition. Et la vraie question, celle utile, c'est pas d'où vient le mal. Jésus lui-même n'a pas répondu. C'est que faire contre le mal? Comment en sortir? Et à ce moment-là, comme Jésus tout à l'heure, dans cet épisode qu'on a raconté, le regard ne se porte plus vers l'arrière, mais vers l'avenir et vers une tâche à accomplir. Et là, on est devant la grandeur de ce que nous sommes, qui est de le combattre, de le limiter, de le guérir, comme Jésus l'a fait, et à notre mesure, comme lui-même l'a fait à sa mesure. Combattre le mal, c'est une tâche. Et d'abord, une tâche pratique. Et je vais vous donner deux, trois petites choses, deux, trois petites pistes. On découvre d'abord qu'il y a une priorité de la victime. Ça, je pense que c'est extrêmement important à redire. Parce qu'on vit dans une société qui est très judiciarisée. Alors, c'est bien, elle prend en main la protestation des victimes, c'est vrai, mais très souvent pour chercher des coupables. Elle s'intéresse énormément aux coupables. C'est important, et pour une personne victime, ça contribue évidemment énormément au processus de reconstruction. Mais ne pensons pas que quand on a châtié les coupables, on a fait l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord de s'occuper des victimes et de leur porter secours. Pour garder l'Évangile, l'Évangile s'intéresse beaucoup moins aux coupables qu'à la victime. Le bon samaritain ne s'occupe pas de savoir qui sont les brigands qui ont mis à mal le pauvre voyageur. Il prend soin de la victime. Jésus ne se demande pas, quand il guérit l'aveugle-né, pourquoi il est dans cet état. Il le guérit. La réponse qu'il donne, c'est de lutter contre lui. Je vais vous donner un exemple très récent, qui est l'exemple de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Et ben, c'est quelque chose que la CIAZ a très bien compris. Je ne dis pas que tout est parfait, mais c'est quelque chose qu'elle a très bien compris et que c'est un aspect qu'il faut vraiment honorer dans ses travaux. C'est qu'elle a placé la victime au cœur de son travail et de ses préoccupations. Elle les a écoutées. Vous avez eu des centaines d'auditions. Elle a cherché à les faire passer d'une condition de victime à un statut de témoin. Vous savez qu'il y avait un livre qui accompagnait le rapport de la CIAZ qui s'appelait « De victime à témoin ». Elle a tenu à les impliquer, à ce qu'elles aient un rôle quand on a élaboré des propositions pour essayer d'éradiquer ces violences. C'est ça que je veux dire. Portons attention aux conséquences du mal. Et ça commence par quoi? D'abord par entendre la souffrance, par consoler, par agir, réparer dans la mesure où du possible, faire le bien quand c'est possible. Parce que celui qui souffre, plus que jamais, il a besoin des autres. Donc la réponse, c'est ça. Elle est déjà dans ce combat pour la vie, contre la souffrance et contre la mort. Attendez, je vous donne deux petits exemples. Magda Hollander Lafont, elle était juive à nouveau, dans ce petit livre, tout petit, elle raconte, elle s'est convertie d'ailleurs après les camps au christianisme. Elle raconte qu'est-ce qui lui a donné le désir de survivre. C'est ça qu'on appelle les petits miracles des justes tout à l'heure, Caroline. Des petits gestes concrets. Les quatre petits bouts de pain, une paire de chaussures qu'on lui a données, quelques gouttes d'eau. Et vous savez ce qu'elle raconte? Parce que ce qui l'a converti, c'est Matthieu 25, chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, la parabole du jugement, l'épisode du jugement dernier. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, soif, vous m'avez donné à boire, étranger, vous m'avez accueilli. Pourquoi? Parce que dans ce récit, ce qui l'a frappé, c'est qu'il y avait quelqu'un de réel, d'agissant, qui était présent à l'homme dans ses besoins les plus élémentaires, manger, boire, se vêtir. Et cette parole de Matthieu 25, elle a résonné en elle, peut-être parce que, à partir de tout ce qu'elle avait vécu, comme une parole de vérité, une parole de délivrance, une parole qui ouvrait un chemin vers plus de vie et plus d'amour. Autre exemple, Vassili Grossman, russe. Alors là, Magda Hollander, c'est un tout petit livre. Vassili Grossman, c'est un énorme pavé, un gros roman sur le destin d'une famille russe pendant le stalinisme, le nazisme, pendant le siège de Stalingrad, dans les camps, etc. Et qu'est-ce qu'il raconte dans ce pavé? Eh bien, au cœur de cette fournaise du mal, qu'est-ce qu'il remarque? La petite bonté. Il appelle ça la petite bonté. La petite bonté d'une vieille qui donne un morceau de pain à un bagnard qui passe, la bonté d'un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, etc. etc. Et il dit cette petite bonté, elle a toutes les apparences de l'insignifiance et de la faiblesse. Mais contre cette petite bonté, on ne peut rien. Voilà ce qu'il dit. Eh ben non, attendez, je ne vous l'ai pas dit. Alors je vous lis. J'ai vu que ce n'était pas l'homme qui était impuissant dans sa lutte contre le mal. J'ai vu que c'était le mal qui était impuissant dans sa lutte contre l'homme. le secret de l'immortalité de la bonté est dans son impuissance du mal. La bonté est invincible. L'histoire de l'homme, c'est le combat du mal cherchant à écraser la minuscule graine d'humanité. Mais si, même maintenant, dans le contexte dans lequel il vit, l'humain n'a pas été tué en l'homme, alors jamais le mal ne vaincra. C'est ça que j'appelle le combat pour la vie. Combattre le mal, c'est un combat pour la vie et qui est aussi un combat pour le sens. Je n'ai pas arrêté de dire que le mal n'avait pas de sens. Mais combattre pour la vie donne du sens. Tous les moyens qu'on utilise pour lutter contre le mal, les petits gestes de solidarité, les gestes de courage, ce qui redonne un peu d'espérance, donnent du sens à ce qui arrive, c'est-à-dire qu'ils mettent du sens là où il n'y en a plus. Importance des actes. Et dans ce combat, la pensée ne doit pas démissionner. Je vous ai dit aussi aporie de la pensée, etc. Et bien dans ce combat, elle aussi doit essayer de faire triompher le sens. Comment ? Et bien quand les choses ne se passent pas comme elles devraient, comme quand tout va de travers, il y a un travail de la pensée à mener, qui n'est pas d'abord de chercher à expliquer, pas d'abord de chercher à justifier, mais qui vise à mettre de l'ordre et de la raison dans une création où le mal met du désordre. Et je vais revenir au travail de la chiase, c'est exactement qu'elle a cherché à faire. Les abus de pouvoir, la pédocriminalité dans l'Église, c'est scandaleux, c'est injustifiable. Le travail de la pensée, il est où ? Chercher à en déceler les causes. Cléricalisme, abus d'autorité, manque de formation, tout ce qu'on veut. Et puis tout le travail d'intelligence effectué pour analyser, comprendre ce qui se passe, chercher des remèdes, tout ce qui cherche à faire progresser la raison et le sens, c'est ce travail de la pensée qui est requis aussi de nous. Et je dirais, ce travail de la pensée, eh ben, il a aussi un autre objet, c'est Dieu lui-même. Parce que ce problème du mal, qui vient contester nos fausses images de Dieu, fausses images de la Providence, fausses images de la toute-puissance divine, nous invite à progresser vers le vrai visage de Dieu, un visage qui est parfois défiguré dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le vrai visage de Dieu pour nous ? Là encore, c'est un travail de la pensée. Alors, je conclue, puis on pourra venir à vos questions si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui ? On a essayé de poser un premier pas, qui est de poser la question du mal. De ce mal qui est une question à la fois qui nous touche et qui nous bouleverse, et en même temps qui est une question tellement difficile. À quoi est-ce qu'on aboutit ? À dire que le mal reste une énigme, et que croire, c'est pas avoir la réponse à l'énigme. Qu'une fois encore, il faut accepter de ne pas tout comprendre. On pourrait être tenté d'accuser Dieu. Je réponds, n'oublions pas que l'image que la foi nous présente, c'est celle de Jésus crucifié, soumis à l'étreinte du mal pour en triompher. La foi ne nous dit pas que Dieu explique le mal et qu'il en sauve. Est-ce que Dieu ne serait pas plutôt la grande objection au mal ? Voilà, à méditer. Reste la question de sa présence au monde, son silence. C'est toute la question de la providence divine. Là encore, on ne peut pas le traiter. Je l'évoque comme une ouverture, encore un chantier à explorer. Alors, vous aurez quelques éléments dans les travaux des groupes avec les textes, notamment sur la providence, Dieu à bon dos et la prière de demande. C'est des choses dont vous pourrez parler entre vous. Seule chose que je peux dire, c'est que la confiance entre la présence discrète mais active et bienveillante de Dieu, elle traverse toute la Bible. Et elle traverse tous les psaumes. On a vu les psaumes de lamentation. Mais il y a aussi tous les psaumes qui nous disent « Tu es présent, tu es avec moi ». Et vous savez que pour nous, ben, cette providence, on en a un signe, le signe ultime. C'est Jésus venu parmi nous. Voilà le signe ultime de la providence, de la présence de Dieu parmi nous. Donc, on est invité à la confiance. Alors, pour autant, parfois, on voudrait Dieu plus interventionniste. Ben, il faut accepter que Dieu n'agisse pas dans le monde au même titre que toute autre cause, que sa présence, ce n'est pas une présence d'intervention. Peut-être qu'on pourrait en parler plus comme une présence de création, une présence de recréation, qui signifiait par des signes très discrets, présence en esprit, une présence où Dieu travaille le cœur, travaille les libertés qui s'ouvrent à lui, un Dieu qui surtout fait de nous ses mains, sa bouche, le lieu de sa providence. Vous savez qu'il y a une congrégation qui s'appelle les Sœurs de la Providence, mais c'est exactement ça leur charisme, être les mains de Dieu pour le monde. Et après ce cours sûrement éprouvant, ben j'ai envie de vous laisser avec une parole. qu'on trouve extrêmement souvent dans la Bible, beaucoup dans la bouche de Jésus, qui est « N'ayez pas peur » ou alors « Ne crains pas car je suis avec toi » et que Dieu est peut-être plus proche de nous que nous l'imaginons. Voilà, alors, je suis consciente que c'est un cours qui doit susciter beaucoup de, peut-être un peu éprouvant, peut-être beaucoup de questions. J'ai essayé d'ouvrir des dossiers, des questions. Après, voilà, c'est des pistes. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Ce que je veux dire, c'est des réflexions, celles dont je vous parle, c'est pas des réflexions de débutants. C'est des réflexions de gens sérieux. Michel.
Sur mute.
Michel, vous vouliez parler ?
Oui, pardon. Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux leur appartient.
C'est toutes ces béatitudes, c'est le portrait même de Jésus qui nous est donné. Voilà, ça ne veut pas dire souhaitons la persécution, etc. Mais je crois que ça dit, vous voyez ce que je retiens moi de ça ? C'est le premier mot qui revient comme un refrain. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Makarios, ça revient à chaque fois. Heureux, heureux, heureux. Je crois que ça, vous avez tout dit en fait là, parce que vous avez dit le projet de Dieu pour nous, qui est le projet de la création, qui est le projet de notre destinée, heureux. Et ce qu'il nous dit, et ça c'est vraiment un portrait de Jésus, les béatitudes, c'est qu'au sein même, alors il nous donne une ligne de conduite, hein, c'est la charte d'une vie chrétienne. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut rechercher la persécution. Hein. Ou rechercher la souffrance. La souffrance n'est jamais un bien. Alors aujourd'hui, là, tout le monde est d'accord pour ça. Alors il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure, que de la souffrance ne peut pas naître... Moi, ce que vous l'avez dit, celui qui a posé la question tout à l'heure. C'est vous, peut-être Anne ? Non, sur la souffrance.
Je ne sais pas. Je suis désolée. Non.
Que la souffrance peut-être pouvait nous conduire à Dieu, etc.
Oui, oui.
Alors, vous voyez, là, vous trouverez ça chez Ricoeur, encore, le petit livre. Vraiment, c'est très intéressant, ce passage. Qui commence par dire, c'est que... toujours face au mal, oui, le titre, hein, un défi. Donc, toujours d'abord, accepter que la plainte se répande. Ce qui est déjà pas évident, parce que dès qu'on veut justifier, voilà, laisser la plainte se répandre, écouter. Et puis après, il y a peut-être la combattre, ce qu'on peut faire, être avec. Et il dit à la fin, il y a peut-être un chemin pour spiritualiser cette plainte, pour lui donner peut-être un sens. Un des stades, c'est peut-être d'abord de croire malgré tout, croire en dépit du mal. C'est comme un travail de deuil, il compare un travail de deuil. Il y a des étapes, il ne faut pas les brusquer, mais il y a un chemin qui peut-être est capable de se faire, Marion Muller-Collard le redit très bien, elle aussi. Acceptons de laisser se répandre la plainte, acceptons l'ignorance de ne pas savoir pourquoi et de ne pas répondre. C'est déjà une deuxième étape. Troisième étape, peut-être, croire malgré tout. Malgré ce mal, croire malgré tout et que notre foi en Dieu, elle peut être réelle en dépit même des épreuves que nous traversons. Et il parle d'un quatrième sens, quatrième étape, mais il dit ça, personne ne peut l'enseigner. C'est un chemin qui est éminemment personnel, c'est l'aboutissement de tout un processus qui sera peut-être de croire, peut-être offrir cette souffrance et croire, mais ça personne ne peut vous le demander, et personne, mais certains dans cette souffrance, peut-être ils découvriront un moyen de s'associer au, voilà, soit aux souffrances du Christ, soit. Mais ce stade-là, il est éminemment personnel.
J'avais évoqué une autoroute vers le paradis, en quelque sorte. Mais on a la chance d'être chrétien, et donc ça transforme l'expérience. Moi, il n'y a rien qui contredise ma foi, mes convictions dans ce qu'on aura vu aujourd'hui. Le mal existe, on est libre. Simplement, depuis toute petite, j'avais marqué que le livre de Job est celui qui me fait peur. On n'espère pas être Job, mais il a la bonne attitude. Hein. Il se révolte, il ne renie pas. Ses amis cherchent à lui faire assumer une responsabilité, ce n'est pas la bonne voie. Y a un combat, et le seul moyen, c'est effectivement de l'accepter. C'est une insulte profonde quand on voit tout le peuple juif, effectivement. En plus, ils n'ont pas la résurrection à la clé avec Jésus. Donc, je trouve que nous, on est quand même pas mal lotis. Enfin, voilà, c'est à chaque pas, simplement, j'ai dit que j'avais la nausée, ça me met les larmes aux yeux, en fait, quand je réfléchis au sujet. C'est plutôt ça.
Je veux dire, la quatrième phase de la. Le quatrième stade. Pour certains seulement, dit-il, c'est le renoncement à la plainte et aimer Dieu pour rien. Exactement comme Job à la fin, vous voyez. Aimer Dieu pour rien. Bon, ça, vous trouverez ça dans le petit livre. Ce que je veux dire aussi, peut-être que vous avez eu le sentiment que je parlais beaucoup de... beaucoup d'incursions en philosophie, beaucoup d'incursions avec, dans le judaïsme. C'est parce que ça a été un tournant pour la théologie, mais attention, hein, je ne cherche pas à dire... que c'est plus pour eux, etc. C'est pas le nombre qui fait la quantité, parce que la souffrance, et là je vous renvoie à Marion Muller-Collard, la souffrance d'une personne, je veux dire, voilà, c'est le même scandale qui est présent avec la même intensité, d'accord, hein. C'est pas le, sauf que là on est arrivé à une entreprise de mal collectif, à un moment où on pensait que ça ne pourrait pas arriver au XXe siècle, qu'on était passé, voilà, on avait un progrès peut-être de la pensée, de l'humanité, qui fait qu'on ne reviendrait pas à des choses comme ça. Voilà. Donc ça a été une source de réflexion. Mais Catherine.
Je pense que parfois, la souffrance peut faire grandir.
Oui.
Pas à tous les coups, elle peut casser, hein, bien sûr.
Oui.
Mais... On voit des gens, ou même soi, on peut...